Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 6h58, excellent réveil à tous. Soyez les bienvenus dans Apolline Matin. Nous sommes le mercredi 14 janvier 2026. Ça y est, c'est officiel. La France ne fait plus de bébés pour la première fois depuis 1945. Il y a eu plus de morts que de naissances sur une année. Et si on faisait gagner des points de retraite aux jeunes parents? C'est la proposition du sociologue Serge Guérin pour tenter de rééquilibrer entre les actifs et les seniors. Il sera avec nous juste après ce journal et puis témoigner auprès de nous si vous avez fait des bébés ou alors au contraire si vous avez renoncé à faire des bébés. Dites-nous pourquoi. Le 32-16 vous est ouvert. Ce matin, on va évidemment continuer à suivre la mobilisation des agriculteurs. Les tracteurs sont en train en ce moment même de quitter le centre de Paris. Ils ont passé une partie de la nuit au pied de l'Assemblée nationale. En revanche, c'est Toulouse qui bloque ce matin. Toulouse qui bloque, vous nous appelez au 32-16 pour en témoigner. Le gouvernement annonce une loi d'urgence. Est-ce que ça suffira à calmer les colères? À 7h40, mon invité, ce sera l'agricultrice et députée européenne Céline Himard. Et puis lui, il rappelle que le traité de libre-échange avec le Mercosur n'était pas que négatif. Il va surtout nous donner des nouvelles de la France. Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, viendra nous donner les toutes dernières tendance économique de ce pays. Il est mon invité à 8h30. Dans un instant, le journal de 7h. Mais tout de suite, la météo, 6h59. Pluie et douceur, Géraldine.
Oui, on va avoir le verre à moitié plein, hein, la douceur, parce que quand on regarde la couleur du ciel, c'est clairement le gris qui domine, avec des pluies faibles. Il y aura un peu de soleil, beaucoup de soleil, même vers les Alpes, et puis un soleil voilé vers le Jura, une partie de la Bourgogne, le midi toulousain. Les éclaircies qui vont arriver sur la Charente-Maritime jusqu'au Pays Basque pour cet après-midi. Mais ailleurs, ce sera compliqué de voir une éclaircie. Pour les températures, ça bouge pas beaucoup, et effectivement, c'est la douceur qui domine. On est 4-5 degrés au-dessus des normales, avec 10 degrés à Lille cet après-midi, 11 à Brest, 13 à Paris, Bourg, 14 à Lyon, 15 à Bordeaux, Marseille, Nice, jusqu'à 17 à Biarritz et Ajaccio. Attention, demain, on va avoir un coup de vent sur le nord-ouest avec beaucoup de pluie. Mais ce sera quand même bien moindre que Gorizia la semaine dernière.
La météo sur RMC avec Penny Lane. L'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
Il est 7h. Excellent réveil à tous. Merci d'avoir choisi RMC pour vous lever.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Une loi d'urgence avant l'été, promesse de Sébastien Lecornu aux agriculteurs, toujours mobilisés ce matin à Toulouse. Des blocages sont en cours sur le périphérique. Nous serons sur place dans ce journal. Elle n'a pas eu le sentiment d'avoir commis un délit au premier jour de son procès en appel. Marine Le Pen se défend de ne rien avoir dissimulé dans l'affaire des assistants parlementaires. Et puis vous entendrez le témoignage RMC de l'une des victimes présumées d'un professeur d'une école catholique de Bordeaux accusé d'une trentaine de viols et d'agressions sexuelles.
24 heures après leur arrivée, les agriculteurs ont quitté Paris ce matin.
Une dernière nuit devant l'Assemblée nationale avant de lever le camp. Les tracteurs de la FNSEA sont en train de regagner leur ferme. Ils ont obtenu de la ministre de l'Agriculture des engagements au sujet de trésorerie. Le gouvernement mobilisé pour tenter d'éteindre la colère agricole. C'est le cas de Sébastien Lecornu qui a promis, Thomas Becker, une loi d'urgence avant l'été.
Oui, un projet de loi axé autour de trois priorités. L'accès à l'eau, la lutte contre les prédateurs, notamment les loups, et le renforcement des moyens de production. Sébastien Lecornu promet que ce projet de loi arrivera à l'Assemblée au mois de mars pour une adoption avant l'été. Pour tenter de faire redescendre la pression à court terme, Matignon fixe un horizon. Le salon de l'agriculture, ce sera fin février. Sébastien Lecornu veut que d'ici là, le sujet brûlant de l'accès à l'eau soit traité. Il a demandé au préfet de débloquer un maximum de projets hydrauliques en attente, ce qui fait déjà grincer des dents un député écologiste en première ligne, lui qui estime que le gouvernement cède à la pression des gros exploitants agricoles. La ministre Annie-Jeanne Varel répond sans détour, il y a urgence, sans être certaine que les mesures annoncées suffiront à éteindre la crise.
Et force est de constater que la crise couvre toujours. Ce matin, la 64 est coupée dans les deux sens de circulation à l'entrée de Toulouse. Secteur très chargé en ce moment avec des actions en cours sur place. Et en direct ce matin pour RMC, Jean-Wilfried Forquès, vous êtes sur l'un des points de blocage du périphérique toulousain.
Oui, des actions avec des véhicules à l'arrêt, des camions, des voitures, des automobilistes. Je peux vous assurer, Thibaut, totalement ulcérés, agacés, bloqués pour aller travailler ce matin. Nous sommes avec Maxime Rau, bonjour.
Bonjour.
De la coordination rurale ici, des actions qui se multiplient, plusieurs points de blocage, c'est ça depuis le milieu de la nuit. Hein.
C'est ça. C'est ça, c'est ça.
Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que vis-à-vis de la DNC, tout ça, on n'a toujours pas de réponse. Et les propos de Madame la Ministre ne nous vont pas. Et ces mesures, c'est des mesurettes qui ne servent à rien.
C'est-à-dire que les propositions, les nouvelles propositions données hier soir, ça ne vous convainc pas ?
Non, ça ne nous convient pas.
Ça veut dire que vous allez occuper Toulouse toute la journée ?
On va essayer.
Voilà, la mobilisation, Thibault, ici, se poursuit sur le terrain. Point de blocage ici à Saint-Simon. Une partie du périphérique est bloquée ce matin. C'est très difficile pour regagner votre lieu de travail, certainement. Plusieurs agriculteurs ont été interpellés dans la nuit. Deux restent placés en garde à vue ce matin.
Et des complications aussi du côté de Bandol dans le Var, opération Escargot sur la 50 entre Marseille et Toulon. Des agriculteurs et surtout des éleveurs bovins qui seront absents du salon de l'agriculture pour la première fois en plus de 60 ans. Il n'y aura pas de vaches en février, porte de Versailles. Annonce de la direction hier et par solidarité, les éleveurs de race ovine et porcine ont également renoncé participer à l'événement. On en reparle dans le journal de 8h. Elle continue de clamer son innocence. Marine Le Pen s'est exprimée face au magistrat hier au premier jour de son procès en appel dans l'affaire des assistants parlementaires du FN. Et il semble, Guillaume Bier, que la triple candidate à l'élection présidentielle qui joue son avenir politique a changé sa ligne de défense.
Exactement. Fini sa virulence de première instance, sa façon de tout nier en bloc et de dénoncer un procès politique. Hier, Marine Le Pen s'est montrée humble en expliquant, je cite, que si un délit a été commis, et tout le monde semble dire qu'un délit a été commis, je veux bien l'entendre, nous n'avions aucun sentiment d'avoir commis le moindre délit lorsque nous avons embauché nos assistants. Et l'ancienne présidente du RN va même jusqu'à rejeter la faute sur le Parlement européen qui, selon elle, n'a pas joué ce rôle d'alerte tel qu'il aurait dû le jouer. Derrière Marine Le Pen, les principaux prévenus ont répété presque mot pour mot que non plus n'avaient jamais eu l'intention ou le sentiment de commettre un délit. Toute la question sera de savoir si, lors des débats, cette nouvelle ligne de défense uniforme résistera aux multiples indices du dossier.
Marine Le Pen, qui n'a de fait pas assisté à la reprise des débats portant sur le budget hier à l'Assemblée nationale, les députés appelés à un dernier effort par le gouvernement de Sébastien Lecornu, le Premier ministre, sous la menace de deux motions de censure RN et LFI débattues aujourd'hui contre l'accord avec les pays du Mercosur. Il est 7h05, un témoignage RMC maintenant, celui de Marianne, victime il y a 18 ans d'un instituteur d'une école privée de Saint-Genès-la-Salle à Bordeaux, mise en examen en 2023 pour viol, agression sexuelle et voyeurisme sur des enfants. Il lui est notamment reproché d'avoir mis en place des jeux du goût durant lesquels il imposait à ses élèves des fellations. Marianne en a été victime à l'âge de 8 ans et c'est bien après les faits qu'elle s'en est rendue compte. Elle s'est livrée au micro de Bérangère Bocquillon.
Il nous bandait les yeux, il nous faisait goûter différents aliments, il nous faisait pas goûter avec une cuillère. Donc là, j'avais directement senti que c'était quelque chose de pas normal, mais on me disait que c'était pas possible. À l'école, il était adoré, tellement aimé qu'il y a beaucoup de parents qui faisaient des pieds et des mains pour que leurs enfants soient dans sa classe. Moi, je l'ai appris, je travaillais chez Decathlon, et il y a la radio qui passe en boucle. Et quand j'ai appris ça, je me suis évanouie. J'en veux beaucoup à l'établissement auquel on faisait confiance. J'avais beaucoup de culpabilité de pas avoir assez parlé en 2008. Parce que j'aurais aimé que ça ne se reproduise pas. Mais en même temps, quand je vois que finalement beaucoup de personnes étaient au courant, je me dis que ma parole, elle aurait eu peut-être aucune valeur.
Et placé en détention provisoire, cet instituteur père de famille de 54 ans a reconnu une partie des faits. Il sera jugé devant la cour criminelle de Gironde. Il encourt jusqu'à 20 ans de réclusion. L'appel de Donald Trump aux Iraniens, encouragés à continuer leur combat contre le régime des Mollahs, à manifester, à prendre le contrôle des institutions, dit le président américain, qui promet que l'aide est en route. Il a réuni ses équipes hier soir à la Maison Blanche, propos dénoncés par Téhéran qui évoque des troubles orchestrés, prétexte à une intervention militaire américaine.
En Coupe de France, il ne reste plus que des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 après l'élimination du dernier petit poussé hier soir.
Les amateurs de Bayeux, club de 6e division, n'ont pas résisté bien longtemps face à l'OM. Les Marseillais s'imposent de 9-0 et font désormais de la compétition un objectif, Christophe Lécuyer.
Oui, l'OM a validé son billet pour les 8e de finale au terme d'un match dominé de bout en bout. Un état d'esprit qui doit permettre à cette équipe d'aller au terme de cette compétition sans pour autant négliger les autres, assure le défenseur marseillais Facundo Medina.
On est l'OM, il faut garder la mentalité de jouer toute la compétition à 100%. C'est un objectif principal pour nous, on dit la vérité. Même le championnat, c'est important. Et on est encore dans la Ligue des Champions, on va faire tout à 200% parce qu'ils méritent cette clé, ils méritent nous, notre équipe, notre groupe, et on ne va pas lâcher.
Le PSG éliminé de la Coupe de France. Cela peut en effet laisser le champ libre à l'OM, à qui il reste 3 matchs à gagner pour atteindre la finale. Mais pour l'entraîneur marseillais Roberto De Zerbi, gagner un trophée impose un état d'esprit, quel que soit l'adversaire.
C'est vrai que le PSG a été éliminé, mais le foot, ce n'est pas que les grosses affiches. Le défi est d'aborder toutes les équipes de la même manière. Ça passe par la préparation. Pour moi, il n'y a pas de trophée des champions ou de Coupe de France ou autre. Toutes les rencontres sont importantes.
Là, au prochain tour, l'Olympique de Marseille recevra Rennes dans 3 semaines au Vélodrome.
LPFC est tombeur du PSG. Lundi se déplacera à Lorient, Lens ira à 3, Lyon sera opposé à Laval. Et puis ne manquez pas ce soir sur RMC, soirée spéciale Coupe d'Afrique des Nations avec les demi-finales de la compétition Sénégal-Égypte à 18h, suivi de Maroc-Nigeria, ce sera à 21h.
C'était le journal de Thibaut Texer. Il est 7h08 et ça y est, c'est officiel. C'est officiel, il y a désormais plus de morts que de naissances en France. Le chiffre a été dévoilé par l'INSEE. Il y a eu seulement 645 000 naissances en 2025 et c'est un chiffre au plus bas depuis la Deuxième Guerre mondiale. Bonjour Serge Guérin.
Bonjour.
Vous êtes sociologue spécialiste de la démographie. Et votre idée, c'est que pour inciter les parents à faire des enfants, eh bien, il faudrait peut-être leur donner plus de points de retraite. On va voir si ça peut vous convaincre. Tiens, vous qui nous appelez au 3216, venez donc témoigner. Est-ce que vous avez renoncé à des enfants que vous auriez souhaité mettre au monde, ou alors est-ce qu'au contraire vous êtes bien content de ne pas en avoir fait? Et si vous en avez fait, dites-nous pourquoi. On vous attend au 3216. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h12, vous nous écoutez sur RMC, vous nous regardez à la télé, Canal 23, RMC Story. Ce chiffre qui a donc été dévoilé hier, parce que ça y est, c'est officiel, il y a désormais plus de morts que de naissances en France. Allô maman, bobo, comment on fait, parce qu'évidemment ça doit nous interroger aussi sur notre modèle social, sur l'équilibre, la pyramide des âges, les actifs d'un côté, les seniors de l'autre. Bonjour Serge Guérin, vous êtes sociologue spécialiste de la démographie. Votre parti pris ce matin, c'est que pour inciter les jeunes parents à faire des bébés, vous vous dites il faudrait majorer leur retraite. Est-ce que vous pensez franchement que ça peut convaincre les uns et les autres de faire des bébés?
Alors, ça suffira pas, mais devant cette... on est dans une situation, on pourrait dire, de déchéance de natalité. Alors, nous, face à la déchéance de natalité, on a inventé un truc génial. On est le seul pays au monde où on se dit, il suffit de travailler moins. On va bloquer la retraite à 60 ans, à 62 ans. C'est-à-dire qu'on fait l'inverse de tous les autres pays. Or, l'enjeu, c'est d'abord, de changer un peu le regard. C'est-à-dire que les gens âgés d'aujourd'hui, je sais pas, avoir 75 ans en 2026, c'est pas avoir 75 ans comme en 1956. 75 ans en 2026, c'est 45 ans en 1956. Donc, première chose, c'est tout simplement travailler plus longtemps au bazar de sort. Commençons par là. Ce que font tous les pays.
On travaille plus longtemps. On n'aura pas le choix.
Et à force de reculer, on va passer d'un coup d'un seul
à 75 ans.
Non, on va le faire progressivement. Et puis pas tout le monde.
Sur votre histoire de points de retraite. Moi, mère de famille, 4 enfants, je crois que j'ai gagné. Alors j'ai vérifié l'autre jour, je dois vous le dire, sur mon compte maretraite.fr.
Bravo.
En effet, j'ai gagné des trimestres pour chaque grossesse. Mais pour autant, franchement, d'abord, j'en avais pas la moindre idée quand j'ai mis mes enfants en route. Est-ce que vous pensez que ça fait partie des j'hésitais, j'y vais puisque je vais gagner des points de retraite?
Non, c'est pas ça. Globalement, normalement, on fait pas des enfants parce qu'il y a une petite prime en plus, parce qu'il y a un congé parental un petit peu plus.
En revanche, est-ce qu'on peut renoncer à faire des enfants parce que justement on aurait moins de sous?
Alors, ça peut arriver, évidemment, c'est une des raisons. La première raison, elle est simplement, il y a moins d'envie de faire des enfants. La réussite de sa vie, pendant longtemps, c'était couple et enfants. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Et pourquoi pas, c'est comme ça. Donc faut le prendre en compte. Il y a une réalité, c'est que les gens ont moins envie de faire d'enfants pour plein de raisons.
Pour
c'est anthropologique.
Il y a des raisons, d'abord, effectivement, vous le disiez, d'une forme de bien-être ou de recherche d'un bonheur autre. Il y a aussi la question économique du logement. C'est, semble-t-il, le point faible et la question qui bloque un certain nombre de parents d'oser mettre en route, pas forcément le premier enfant, mais au moins le deuxième.
Alors, c'est pour ça, d'ailleurs, que moi, je pense qu'il faut aider dès le premier enfant. Faut pas attendre le troisième. Faut attaquer tout de suite. Faut aider tout de suite. Parce qu'en effet, il peut y avoir un problème économique pour un certain nombre de personnes. Encore une fois, s'il y a pas les 15 mètres carrés officiels, c'est pas très grave non plus. On est aussi beaucoup dans des logiques hyper consommateurs et hyper individualistes aussi. Parce que ce qu'il y a derrière,
les enfants,
c'est pas seulement l'argent.
Ils peuvent partager des chambres. Ils l'ont fait pendant des années. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on l'ose peut-être moins.
Et vous avez raison. Dans le mot important, c'est partage. si on apprend aux enfants à être un peu plus dans la coopération, c'est pas mal non plus. Donc c'est pas que une question d'argent, même s'il y a aussi une question d'argent. C'est d'abord une question d'envie, c'est d'abord une question aussi de perspective. On est quand même dans une situation qui est pas hyper folichonne. Il y a plein de gens qui ont pas trop envie parce qu'ils se disent c'est le bazar, il y a la guerre, il y a l'écologie, il y a tout ça.
La confiance dans l'avenir. Antoine nous a appelé au 3216 du Haut-Rhin. Vous êtes à Lutterbach. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Antoine, 33 ans, deux enfants ?
Oui, c'est ça, depuis peu.
Depuis peu, quel âge a le deuxième ?
Elle a 4 semaines.
Elle a 4 semaines ! Félicitations, ça dort pas beaucoup alors. À cette heure-ci, à 7h16, vous avez encore les yeux qui piquent sûrement pour une nuit sans doute agitée. Qu'est-ce qui fait que vous avez osé faire un deuxième enfant, Antoine ?
Alors, l'envie de la parentalité, c'est ça. Après, c'est surtout que, enfin, mon point de vue, c'est que aujourd'hui, c'est pas des points de retraite, une échéance aussi lointaine. Pour moi, c'est un peu utopiste et c'est un peu risible. Je vois pas quelle motivation on va réellement avoir à l'instant T. Pour moi, aujourd'hui, ce qui fait défaut, et je le vois au niveau de mes amis et les personnes qui ont le même âge, c'est les niveaux de prestations qu'on a aujourd'hui. Quand on voit les difficultés aujourd'hui des gardes d'enfants, quand on voit toute la peine à l'accompagnement et permettre les parents de rester un peu plus longtemps à la maison, cet accompagnement-là qui est franchement difficile. On parlait de réarmement démographique. Aujourd'hui, je ne vois pas vraiment ce qui est en cours et ce qui nous permet vraiment d'y aller.
Ouais.
Mon exemple.
Ouais, allez-y, dites-moi justement comment vous faites, Antoine.
Mon exemple à nous, on a donc une deuxième petite fille. Ma femme est censée reprendre le travail en février après son congé maternité.
Ouais.
Alors autant dire que février, trouver une solution de garde, c'est juste impossible. Et on nous le fait bien savoir, c'est septembre ou rien. Ouais. Donc ça nécessite de rester à la maison. Et derrière, le soutien financier qu'on reçoit,
C'est ridicule. Elle fait quoi, votre femme?
450 euros. Elle est infirmière formatrice.
Ouais. Et donc effectivement, c'est très dur. Ça veut dire qu'elle va se retrouver soit à bricoler jusqu'en septembre, soit à devoir rester à la maison. Et financièrement, ça va être un petit sacrifice. Non, c'est sûr. Antoine, et ça, on l'entend bien d'ailleurs, de ce point de vue-là, quand vous disiez Serge Guérin, vous entendez Antoine qui dit, on nous a parlé de réarmement démographique, mais on nous a pas donné les armes. En vrai, on nous a pas vraiment donné les armes.
Je crois qu'il aurait mieux fait de se taire, mais ça, c'est un autre sujet.
Ouais, Emmanuel Macron, sur cette expression.
Voilà, rien que l'expression. Mais d'ailleurs, le cas est super passionnant, parce que sa compagne, la mère, elle est infirmière. On en a besoin, des infirmières. Vous voyez, on a aussi
donc
ce problème-là.
Donc on devrait l'aider, justement, à reprendre le boulot.
Absolument. Et d'un côté, on va arriver dans les années qui viennent, en 2031, on va commencer à arriver sur les générations où il n'y aura pas eu d'enfants. Donc il y aura de moins en moins de gens pour travailler, et c'est le moment où on va avoir un accroissement pendant 20 ans des plus âgés. Donc là encore, on a un besoin d'un côté d'être humain, d'intelligence. On les produit pas, puisque s'ils naissent pas, ils vont pas être intelligents.
Bon, vous voulez dire que les prix Nobel de demain, faut leur donner naissance maintenant, quoi.
Voilà. Alors, ils vont pas tous être prix Nobel, hein. Faut pas non plus raconter d'histoire. Voilà, mais n'empêche
pourquoi pas. Hein. Je place grand espoir dans mes enfants. Antoine, dans tous ces enfants à naître. Antoine, vous avez pas de regrets, là?
Ah non, pas du tout.
Voilà la bonne réponse. Mais oui. Bien sûr, ça ne se fera pas pour du logement ou autre.
Oui, Antoine, je vous écoute.
Non, je pense que l'aspect financier, c'est un élément qui freine les gens. C'est une réalité, mais ce n'est pas une motivation.
Merci.
Quand on veut un enfant, c'est pour la beauté de la parentalité.
C'est très beau. Eh ben Antoine, merci en tout cas d'avoir témoigné, et merci à vous Serge Guérin, sociologue, vous avez publié « Et si les vieux aussi sauvaient la planète ?» C'est aux éditions Michalon. Anna Arendt, pour une fois, je vais quand même la citer ce matin sur RMC, elle disait « Chaque enfant qui naît est un espoir pour l'humanité ». Je le crois très profondément. 7h20 sur RMC. Et Arthur Chevalier est entré dans ce studio. Il est encore jeune, mais ça n'est plus un enfant. Arthur, il y a deux jours, l'ancien nationaliste corse Alain Orsini était tué au moment des funérailles de sa mère, alors qu'il se recueillait sur la tombe de sa mère. Le signe que la Corse n'en a pas fini avec la violence.
Oui, un assassinat qui n'est pas revendiqué, mais qui ressemble à un règlement de compte entre nationalistes corses, un mouvement qui n'a jamais hésité à s'en prendre à la République.
Vous nous le dites dans un instant, il y a aussi Arnaud Demange qui vient pirater le face-à-face. Ne bougez pas, on se retrouve dans 60 secondes sur RMC, 7h20.
RMC, Apolline Matin.
7h21 sur RMC et RMC Story. Quand l'histoire éclaire notre actualité, comme chaque matin avec vous, Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, Alain Orsini, figure du nationalisme corse, a été assassiné lundi. La Corse n'en a pas fini avec la violence.
Oui, Alain Orsini a été tué pendant les obsèques de sa mère, a priori d'une balle provenant d'un tir à longue distance. Une méthode jugée ignoble par Joe Peraldi, un ancien chef du FLNC, le FLNC, le Front de Libération Nationale de la Corse, auquel Orsini a longtemps appartenu avant de s'en éloigner dans les années 2000.
Il y avait adhéré dès ses débuts ?
Oui, Orsini rejoint le FLNC l'année de sa création en 1976, c'est-à-dire un an après la première action armée des autonomistes corses, hein, c'était en 1975, dans la ville d'Aléria. Des hommes avec des fusils occupent une cave viticole. Pourquoi ? Eh bien parce que cette cave appartenait à un pied noir, c'est-à-dire un rapatrié d'Algérie. Les autonomistes dénonçaient les terres données par le gouvernement français à ces pieds noirs plutôt qu'aux Corses. L'affaire se solde par un affrontement avec les gendarmes. Deux d'entre eux perdront la vie.
Donc le FLNC, c'est un mouvement indépendantiste.
Totalement, hein, sa doctrine est claire. L'autodétermination du peuple corse, y compris par la lutte armée. Et le principal mode du FLNC, c'est ce qu'on appelle les nuits bleues.
Les nuits bleues, qu'est-ce que c'est les nuits bleues ?
Alors les nuits bleues, ça désigne une série d'attentats perpétrés en une seule nuit avec des explosifs, hein, d'où le nom de nuit bleue en référence à la couleur que ça fait dans le ciel. Une des plus célèbres nuits bleues a eu lieu le 19 août 1982. 70 attentats sont commis à Bastia, Calvi, Ajaccio. Les cibles, ce sont des commerces, des appartements, des bureaux qui appartenaient à des continentaux, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas corses, avec un message très clair, dehors.
Le FLNC, c'est aussi des meurtres, et des meurtres revendiqués.
Eh oui, hein, dans la plupart des cas, il s'agit de règlements de comptes entre mafieux, mais ça touche aussi parfois directement l'État, hein. Le premier haut fonctionnaire assassiné par le FLNC, c'était Pierre-Jean Massimi, qui était secrétaire général de la Haute-Corse. Le 13 septembre 1983, il est tué au volant de sa voiture à Bastia. Désormais, le FLNC s'attaquait à la République.
Le FLNC qui est aussi capable d'agir hors de Corse.
Oui, personne n'était à l'abri. Hein. En octobre 1996, une bombe explose à la mairie de Bordeaux. Un symbole, puisque le maire de Bordeaux à l'époque, c'était Alain Juppé, qui était aussi Premier ministre. Alors, c'est un attentat sans victime, mais revendiqué par le FLNC. Là encore, la République était dans le viseur.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste du FLNC ?
Alors, officiellement, le FLNC a déposé les armes en 2014, hein, mais c'est un réseau tentaculaire qui n'est jamais vraiment mort en fait. En 2022, au moment où on parlait de l'autonomie de la Corse, le FLNC a même menacé de reprendre le combat. Donc oui, c'est encore une menace.
Merci Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. C'est l'heure d'accueillir Arnaud Demanche.
RMC.
Demanche Pirate, le face-à-face.
Salut Arnaud. Arnaud, mon invité tout à l'heure sur RMC et BFM TV, ce sera le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo.
Oui, François Villeroy de Gallo. Villeroy de Gallo, c'est marrant, on dirait un nom de cheval en fait. Parce que il est gouverneur de la Banque de France, mais il court aussi dans la troisième à Auteuil. Alors que le 4, Lancelot du Kentucky déborde à la corde et laisse sur place le 8, Bégonia de Ménilmontant et le 9, Galouzo de Villepin, qui est pourtant le dernier vainqueur du prix Qatar de l'Arc de Triomphe. Et le 2, François Villeroy de Gallo fait une belle remontée et rejoint le 7, Dark Side of the Moon, et le 3, Matinale de la Tour du Pin. Ça sonnerait vachement bien.
Ah ouais,
quand même.
Excellent.
Ça sonnerait cool. Mais bon, là, il est banquier, ouais. François Villeroy de Gallo. Les chevaux et les bourses, c'est sa grande passion. Bon, allez, assez rigolé, le sujet est sérieux. On a toujours pas de budget 2026. Où sont les sous ? Si ça se trouve, ils sont à la Banque de France. Ça se trouve dès que notre ministre des Comptes Publics, Amélie de Montchalin, appelle François de Gallo et lui demande « On peut avoir des sous ?» C'est très tendu. En tout cas, il y en a qui sont contents. Ce sont nos voisins de BFM Business, le couple le plus glamour du PAF, Edwige Chevrillon et Emmanuel Le Chip. Emmanuel Chouminou, qu'est-ce que tu fais encore en caleçon ? François Villeroy de Gallo arrive dans moins d'une heure et tu n'es pas prêt. Viens m'aider à fixer ma gaine. Les régisseurs n'y arrivent pas. Qui s'occupe de mon épilation ici ? On peut m'envoyer l'assistant plateau ?
Mais madame, à la base, je suis un gesson, moi, je sais pas.
Écoutez, jeune homme, c'est un cas de force majeure. Emmanuel, où est-ce que tu en es ?
Je repasse mes chaussettes.
Oh, mais qu'il est nigo, hein. Tu ferais mieux de repasser ta chronique. Elle est où, ta chronique ? Regarde dans quel état elle est. On dirait du François Langlais de RTL. Tu veux finir comme lui, avec des audiences qui baissent ? Mais vu nos courbes hier, on aurait dit la croissance de la Chine au troisième trimestre. Alors fais honneur à la maison. Retravaille-moi ça. Ça commence comment ?
Dans un contexte monétaire globalisé, la Banque de France...
C'est nul ! Tu vas nous faire honte devant monsieur le gouverneur. Aïe !
que vous m'avez fait mal, vous.
Excusez-moi, je suis pas esthéticienne, j'ai jamais épilé d'économiste. Moi, je suis un gesson à la base.
Non, vous faites lui.
Allez, rendez-vous avec François Villeroy de Gallo à 8h30.
François
on a bien avancé
Villeroy de
Gallo
qui nous donnera des nouvelles de la France, effectivement. Ce sera à 8h30. Merci Arnaud Demange, qu'on retrouve à 8h20 en direct tout à l'heure. Dans un instant, la météo et le journal de 7h30. Et à 7h40, mon invité, elle est à la fois agricultrice et députée européenne, Céline Imar. Les agriculteurs qui bloquent Toulouse. On y revient dès le début de ce journal. À tout de suite. Il est 7h29, il fait doux Géraldine?
Oui, très doux, on est 4 à 5 degrés au-dessus des normales. Ça change après quand même deux bonnes semaines de froid. On a vraiment basculé dans la douceur. Il fera 10 degrés à Lille, à Dijon cet après-midi, 11 à Brest, 13 à Paris, à La Rochelle, 14 à Lyon, Clermont-Ferrand, Toulouse, Nantes, Montpellier, 15 pour Bordeaux, Marseille, jusqu'à 17 à Biarritz et Ajaccio. En revanche, pour le soleil, il va falloir aller du côté des Alpes, vers le Jura, aussi une partie de la Bourgogne, jusqu'au midi toulousain, on aura un soleil voilé. Il y a des éclaircies qui vont arriver vers la Charente-Maritime, jusque sur le Pays Basque cet après-midi, mais sinon ce sera un temps bien gris avec des pluies faibles.
La météo sur RMC avec Penny Lane, l'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal d'Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Le pire est à craindre en Iran où la répression sévit et face à un bilan sûrement très sous-estimé, Donald Trump hausse le ton une nouvelle fois et organise la riposte américaine. La France des agriculteurs scindée en deux. À Paris, ils ont levé le camp, satisfaits de leur rencontre avec la ministre. Mais dans le sud, les blocages reprennent de plus belle ce matin. Et puis les parents appelés à la plus grande vigilance sur la plateforme de jeux en ligne Roblox, très prisé des moins de 13 ans et des pédocriminels, selon la haute commissaire à l'enfance.
Donald Trump veut voler au secours des Iraniens.
Qu'il appelle à tenir le coup et à maintenir la mobilisation qui a démarré il y a maintenant 2 semaines et demie dans le pays. Le président américain a d'ailleurs réuni cette nuit son équipe de sécurité avec notamment son ministre de la Défense pour étudier toutes les options à sa disposition. Il promet d'agir de manière très forte car même si le bilan est très difficile à établir, il pourrait être assez considérable selon ses mots. Et c'est ce que disent aussi les ONG, Inès Zegloul.
Un massacre à huis clos, décrit laconiquement Mahmoud Amiri Mogadam. Le président de l'ONG Iran Human Rights s'attelle à compter les morts. Plusieurs centaines de morts avérées, selon son organisation, du moins pour l'heure, lâche l'officiel.
Nous avons désormais des informations très claires selon lesquelles le nombre de morts pourrait en réalité s'élever à plusieurs milliers.
D'autres preuves, d'autres témoignages continuent de lui arriver au compte-gouttes. Les images des cadavres et les listes fournies par certaines morgues.
Des rapports nous proviennent de partout en Iran, Téhéran, au nord, près de la mer Caspienne, Ispahan, et encore nous n'avons pas beaucoup d'informations provenant des plus petites villes. Et dans la capitale, nous n'arrivons à joindre que 8 centres hospitaliers sur une centaine.
Des atrocités perpétrées dans un pays coupé du monde.
Nous avons aussi la preuve, et cela nous préoccupe beaucoup, que certains manifestants ont été blessés puis abattus d'une balle dans la tête ultérieurement. En somme, ce sont des exécutions sommaires.
Alors j'en appelle aux institutions internationales, conclut-il dans un soupir, pour que justice soit faite, tôt ou tard.
Deux salles, deux ambiances avec de nouvelles actions d'agriculteurs dans le sud de la France sur le périphérique toulousain où l'on constate déjà de grosses difficultés de circulation. L'autoroute A64 est bloquée dans les deux sens aux entrées et sorties de Toulouse. Sur l'A50, les tracteurs mènent une opération escargot entre Toulon et Marseille. Mais à Paris, le calme est revenu avec le départ très tôt ce matin des manifestants qui ont passé la nuit autour de l'Assemblée nationale. Et ce n'est pas la loi d'urgence promise par le Premier ministre qui a apaisé leur colère, mais bien leur rendez-vous hier soir avec la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, qui leur a donné des garanties sur les sujets de trésorerie, selon Luc Smessard, le vice-président de la FNSEA.
On a obtenu hier soir des garanties pour que ces agriculteurs-là puissent être aidés, accompagnés, des agriculteurs qui sont dans le rouge, comme on dit, depuis maintenant avec deux mauvaises années. Et donc ça, c'est une des garanties qui ont suffi. On a surtout obtenu 3 points sur 4 qu'on avait demandé. Le quatrième, on l'a quasiment obtenu, si ce n'est qu'on n'a pas les engagements aussi clairs, puisque ce sera des dérogations. Je peux vous dire que ce matin, les gens sont un peu reposés et sont déterminés à combattre et à gagner ces paroles qui, des fois, ne se transforment pas en actes.
Propos recueillis par Solène Leroux pour RMC. Il est 7h33 et c'est un nom qui ne vous dit sûrement rien, mais qui parle très certainement à vos enfants. La plateforme de jeux vidéo en ligne Roblox est dans le viseur des autorités et notamment de la haute commissaire à l'enfance, Sarah El Haïry, qui appelle les parents à la plus grande vigilance, Rachel Sadodine, face à ce qu'elle décrit comme un repère de pédocriminels.
Interface ludique, colorée. En arrivant sur la plateforme, on découvre une multitude de vignettes animées, des jeux vidéo mettant en scène tantôt des dragons, voitures, poupées et autres loups-garous. Roblox, c'est 150 millions d'utilisateurs chaque jour, dont près de 40% ont moins de 13 ans. De jeunes joueurs exposés aux pédocriminels embusqués sur la plateforme, selon Inès Legendre, juriste à l'association e-enfance.
Des prises de contact qui vont être faites via le jeu, donc via la plateforme Roblox, et qui, in fine, va basculer vers des messageries externes avec des sollicitations sexuelles, tout particulièrement chez les mineurs.
Pour lutter contre ce risque, e-enfance demande le renforcement du système de vérification de l'âge au moment de l'inscription sur la plateforme.
Roblox, c'est exactement la même particularité que tous les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre n'importe quel âge au-delà de 13 ans, et en fait, on va pouvoir accéder à toutes les fonctionnalités de Roblox.
L'association de protection de l'enfance n'est pas pour une interdiction pure et simple de la plateforme aux mineurs. Elle encourage le dialogue entre parents et enfants pour s'assurer d'une utilisation sécurisée de Roblox.
7h35, on en sait plus ce matin sur la fraude sociale.
Fraude très souvent brandie dans les débats politiques. On parle de 14 milliards d'euros de manque à gagner l'an dernier selon le rapport publié hier par le Haut Conseil du financement de la protection sociale. Mais contrairement aux idées reçues, les bénéficiaires de ces prestations sociales ne représentent qu'un tiers des fraudeurs. Pour plus de la moitié, il s'agit en réalité de patrons dans l'hôtellerie-restauration, les transports ou encore le BTP, Anna Jojard.
Il arrive parfois à Lionel, artisan plombier, de ne pas déclarer certains de ses travaux.
C'est jamais des très grosses sommes, quoi. C'est 20 euros, 30 euros.
Du travail non déclaré qui représente moins de 5% des revenus de l'artisan qui explique faire ça pour arranger les clients.
Si je dois faire une facture normale, je dois compter mon déplacement, je dois compter les pièces, mon temps de travail et tout. Puis de suite, ça fait une somme importante pour mon petit robinet qui coule. Je fais un prix, quoi. Voilà. Et du coup, je paye pas d'impôts dessus, mais je fais pas fortune avec ça.
Ce n'est pas le cas de tout le monde. Sur les 14 milliards d'euros qui échappent à la sécurité sociale, seulement 680 millions ont pu être recouvrés. Un écart qui s'explique par la difficulté parfois d'identifier les fraudeurs, selon Dominique Libaud, président du Haut Conseil du financement de la protection sociale.
Nous avons une organisation du travail en France de plus en plus avec des sous-traitants et ce qu'on appelle des entreprises éphémères. C'est elles qui concentrent l'essentiel du travail dissimulé et le jour où il y a un contrôle, elles disparaissent.
Selon lui, le taux de fraude à la sécurité sociale reste toutefois constant par rapport à l'année dernière.
L'Olympique de Marseille, qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France après avoir battu le petit poussé Bayeux 9-0 hier soir. Et puis ce soir, c'est le début des demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations avec à 18h Égypte-Sénégal et Maroc-Nigéria à 21h. Les deux matchs à vivre évidemment sur RMC avec une soirée spéciale aujourd'hui de 20h à minuit.
Et puis le quintet, 13h55 sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer.
Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Le favori aujourd'hui, c'est le numéro 5, Alpa. L'outsider, c'est le 9 à l'œil Sius.
C'était le journal d'Élise Dangean. Il est 7h37 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Les tracteurs ont quitté le centre de Paris à l'aube. Ça coince désormais du côté de Toulouse. Une colère des agriculteurs très profonde. C'est ce que vous nous direz dans un instant, Céline Imar. Céline Imar, vous êtes députée européenne, vice-présidente des Républicains et agricultrice vous-même, agricultrice dans le Tarn. Est-ce que les promesses d'une nouvelle loi d'urgence faite par Sébastien Lecornu à la fin de la journée hier peuvent faire rentrer les troupes dans les fermes? Votre réponse dans un instant. Et vous tous qui nous écoutez, appelez-nous au 3216 ou laissez-nous des messages sur le WhatsApp de l'émission 0612 424 424. Si vous êtes dans le coin de Toulouse, dites-nous si ça coince. Et si vous êtes agriculteur, dites-nous si ça vous apaise les promesses du gouvernement. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h41, très belle journée à l'écoute d'RMC. Après Paris, les agriculteurs bloquent ce matin Toulouse et leur colère ne retombe pas. Bonjour Céline Imar.
Bonjour.
Vous êtes vous-même agricultrice. Vous êtes agricultrice et députée européenne, vice-présidente des Républicains. Vous avez une exploitation d'agriculture céréalière dans le Tarn. Au fond, il y a eu la dermatose. Il y a eu ensuite la question du Mercosur. Mais la colère ne retombe pas.
parce qu'elle est beaucoup plus profonde, parce que les problèmes sont beaucoup plus profonds, Céline Imar.
Parce qu'ils sont beaucoup plus profonds, ils sont connus, c'est le problème du revenu, c'est le problème des normes, c'est le problème de la considération. On ne peut pas traiter une crise économique, sociale, mais aussi identitaire, encore au-delà du problème du revenu, comme un problème de circulation, si vous voulez. Aujourd'hui, le vrai problème, et c'est ça que les agriculteurs ressentent, c'est que Emmanuel Macron a réussi deux choses pendant son mandat. La première chose, c'est la dissolution ratée de l'Assemblée nationale, qui a aussi causé des problèmes aux agriculteurs avec l'instabilité derrière. Puis la deuxième chose qu'il aura magnifiquement réussi, c'est la dissolution de la France dans l'Union européenne. Puisque là, on voit bien que l'Europe n'a plus aucun moyen d'écouter la France. La France n'est plus crédible, et ça, les agriculteurs le voient. Le fait que l'Europe puisse s'asseoir sur la position de la France, aujourd'hui, ils le perçoivent aussi comme une humiliation.
Et en même temps, il y a quand même quelque chose d'assez contradictoire, Céline Imar, c'est que vous-même, vous êtes députée européenne, vous appartenez au groupe de la droite européenne dans lequel siège... Enfin, d'où vient Ursula von der Leyen, qui est la première batailleuse, j'allais dire, du Mercosur.
Tout à fait.
C'est quand même assez contradictoire.
Et non, c'est pas contradictoire. Aujourd'hui, les fractures sur le sujet, notamment du Mercosur, se font par pays. C'est-à-dire que ce soit les députés ou les États membres, ils vont défendre leurs intérêts nationaux. C'est ça le vrai sujet. Ursula von der Leyen, elle est allemande. Tous les Allemands, tous les Espagnols, beaucoup de pays du Nord aussi, ou qu'ils soient placés à la Commission, vont défendre cet accord parce qu'il est vital pour eux. Aujourd'hui, les Allemands ont besoin d'amener une bouffée d'oxygène. Et c'est ça le véritable sujet. C'est qu'aujourd'hui, le coq français, dans ce contexte-là, est devenu un poulet malheureusement sous hormones. Et on est passé de la politique de la chaise vide à la politique de la chaise inutile.
Céline Imar, vous avez dit, dans la liste des problèmes auxquels sont confrontés les agriculteurs, vous avez parlé de la question des revenus d'abord, vous avez parlé ensuite de la question des normes. Est-ce que la France, et là, indépendamment de la question de l'Europe, il y a un petit côté un peu trop facile à dire c'est la faute de Bruxelles, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu, et là, j'ai envie de dire tout gouvernement confondu, qu'ils aient été de droite ou de gauche, une sorte d'exagération des normes, ou alors, quitte à faire des normes, il fallait les appliquer à tout le monde?
Chaque administration aussi a rajouté sa couche. C'est bien là que le bât blesse. C'est que j'en parlais hier aux agriculteurs sur l'application de la directive nitrate, sur l'application des normes sur l'eau, sur l'application des normes sur les phytosanitaires. Pourquoi les autres agriculteurs ne sont pas dans la rue? Parce qu'en fait, la France a le chic de rajouter des surtranspositions. Là aussi, les macronistes, avec le pacte vert, notamment, qu'ils ont promu au dernier mandat avec Pascal Canfin, et aujourd'hui qui viennent dire « vite, il faut faire des lois d'urgence de simplification », c'est un peu comme des pyromanes qui feraient la promotion de l'assurance incendie. Moi, ça me dérange. Mais bien sûr aussi que tous les gouvernements successifs et les administrations ont une responsabilité dans cette crise, c'est certain. Mais après, il ne faut pas chercher toujours des coupables ou des responsables. Il faut en chercher, il faut les trouver, mais surtout, il faut que ça avance.
Il faut lever ces normes ?
Il faut absolument lever ces normes, il faut revenir à de la simplification réelle. Aujourd'hui, les promesses d'une loi de simplification...
Donc la loi d'urgence promise hier...
Elle ne sera pas votée avant l'été. Regardez, aujourd'hui, on attend encore les décrets d'application de la loi Duplomb, qui était cet été.
La loi Duplomb a été votée en juin, oui. Elle n'est toujours pas appliquée, aucun des décrets n'ont été publiés.
Alors... Il faut à peu près compter 6 mois, en effet, pour que les décrets d'application se publient. Ça nous ramène, en fait, à la campagne des présidentielles pour une loi votée avant l'été, avec le devoir de réserve lié à l'élection.
Donc pour vous, c'est pas ça la réponse. La loi d'hier n'est pas une réponse. La loi promise hier n'est pas une réponse.
Ce n'est pas une réponse qui va donner des effets et qui va répondre à l'urgence. Aujourd'hui, les agriculteurs sont dans l'urgence absolue, que ce soit les vitesses.
Qu'est-ce qu'on peut faire en urgence?
Lever les normes. Aujourd'hui, sur les nitrates, typiquement.
Ça, on peut le faire par règlement, on peut le décider.
Par règlement, par ordonnance. Le vrai sujet, c'est qu'il n'y a pas la volonté politique derrière ce sujet-là.
Je voudrais qu'on donne la parole à Quentin qui nous appelle de Quimper. Bonjour Quentin, vous êtes fonctionnaire territorial et vous vouliez nous alerter parce que depuis ce matin, on parle des blocages qui ont eu lieu jusqu'à tôt ce matin au centre de Paris avec des tracteurs devant l'Assemblée nationale. On parle de ce qui se passe du côté de Toulouse où ça bloque autour de Toulouse, mais vous vouliez nous alerter sur le fait que ça a bloqué aussi en Bretagne.
Oui, exactement. Et bonjour Apolline déjà.
bonjour.
Ouais, depuis hier, ils ont bloqué entre Quimper et Quimperlé, toute la
okay.
loi, en fait, que okay. tout le monde utilise sur le territoire breton. Mmh. Et du coup, ça a créé d'énormes bouchons. Moi, je suis resté 1h30 bloqué hier soir sur un trajet d'une demi-heure.
D'accord.
Mais du coup, ouais, c'est très, très impressionnant. Et voilà. Après, on n'a pas d'infos sur où est-ce qu'ils sont exactement, qu'est-ce qu'ils ont bloqué. Ah, visiblement, en fait, ils ont fermé la 4 voies de manière sécurisée. En fait, c'est pas les agriculteurs qui nous font sortir de la 4 voies, c'est... c'est des plots orange et du coup on voit même pas les agriculteurs.
Vous les voyez même pas, mais ils ont bloqué semble-t-il sur environ 20 kilomètres. Donc hier RN 165, merci de nous alerter parce qu'effectivement il y a ce genre de mouvement aussi à d'autres endroits de France. Vous avez mis une heure et demie là où vous mettiez d'habitude une demi-heure. Est-ce que vous les soutenez malgré tout?
Oui, parce que ce sont, ils ont franchement leurs revendications sont paraissent plutôt légitimes et en fait ils n'ont pas de pouvoir de nuisance contrairement aux contrôleurs aériens, aux contrôleurs SNCF. Ils n'ont pas de pouvoir de nuisance, donc malheureusement ils ont que ça comme solution.
Ouais,
donc,
s'ils font grève tout seul dans leur exploitation, effectivement personne n'en tiendra compte. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir alerté, Quentin. Et comme Quentin, vous n'hésitez pas au 32-16 à nous le dire. Ce matin, le journal L'Opinion révèle que la Banque de France a fait une étude globale sur l'agriculture et le secteur agroalimentaire. Et Céline Imard, ils le disent, c'est un désastre. Ils disent c'est un désastre absolu. La balance commerciale, on le sait, a basculé, mais ils disent c'est un désastre beaucoup plus profond. Les normes, bien sûr, mais aussi la fiscalité, disent-ils, est beaucoup plus lourde sur nos agriculteurs que sur chacun de nos voisins. En fait, le problème, c'est que nous ne jouons pas avec les mêmes armes que les Allemands, les Polonais, les Italiens, les Espagnols.
Bien sûr, qui nous renvoient d'ailleurs cet état de fait en effet miroir. Quand on leur dit voter contre le Mercosur, ils nous disent le Mercosur est toujours pas entré en vigueur et vos agriculteurs sont déjà très mal. Et on sait quelles sont les causes. Problème de surfiscalité, problème de charges sociales, on a besoin d'un choc de compétitivité, on a besoin de redonner une vision aux agriculteurs en leur disant aujourd'hui la vision de la décroissance qu'on a eue qui a été promue par toute une sorte de bonne conscience d'une sphère écologiste militante à la fois dans l'administration et dans sur le terrain. Aujourd'hui, elle a mené à un empilement de normes qui fait qu'on ne peut plus vivre.
Céline Imard, il y aura tout à l'heure des motions de censure qui seront discutées à l'Assemblée nationale, l'une d'elles par le RN, l'autre par LFI. Initialement, Bruno Retailleau, le patron des Républicains, le parti auquel vous appartenez, avait menacé de censurer le gouvernement si le Mercosur était adopté. Est-ce que vraiment c'était un motif de censure?
Si, et Bruno Retailleau a eu raison, si Emmanuel Macron votait pour. Parce qu'Emmanuel Macron n'a jamais été clair entre ce qu'il disait aux agriculteurs français et ce qu'il disait à ses homologues européens.
Entre-temps, Emmanuel Macron a donc annoncé que la France votait
évidemment,
non.
Il avait
ça n'a rien changé, mais enfin, il a voté non.
Voilà, et évidemment. Donc, il avait le couteau sous la gorge, il a voté non. Mais on n'a pas, Bruno Retailleau n'a pas annoncé la motion de censure si la France perdait le Mercosur. Aujourd'hui, moi, ce que je constate, c'est que LFI, par exemple, dépose une motion de censure et ce sont les premiers à venir cajoler les agriculteurs sur les manifestations, alors qu'ils ont été les premiers à scier la branche sur laquelle l'agriculture est
ça vous a l'air même de vous faire rire tellement vous trouvez ça énorme.
Et maintenant, ils viennent cajoler les agriculteurs parce que les agriculteurs ont peur du vertige alors que c'est eux qui ont coupé la branche. Mais parce que, regardez la loi Pompili 2016, regardez toutes les lois qu'ils ont réussi à faire passer, à promouvoir le pacte vert qu'ils ont porté en Europe, c'est quoi? C'est de l'écologie punitive, c'est de la surtransposition sur tous les
accès aux facteurs de production. Le problème, c'est les écolos, c'est les ONG, à vos yeux, c'est
ça le problème? C'est cette sphère, en fait, qui est devenue majoritaire dans l'opinion, qui fait de l'agribashing à tout va, qui casse dans l'esprit des Français le fait que l'agriculture que nous produisons est la meilleure du monde, que nous respectons déjà les règles environnementales les meilleures du monde. Et en fait, ces gens-là, vous savez, ces ONG, moi je les vois chez moi à côté de la 69, ce sont les mêmes qui se mobilisent à Sainte-Soline ou contre des projets agricoles. Vous savez, quand on se balade comme ça sous couvert de protection de la planète, mais qu'on brandit un drapeau palestinien et qu'on a le t-shirt arc-en-ciel des minorités LGBT en même temps, parce qu'on applique la convergence des luttes, et on se mobilise en permanence contre l'extension d'une porcherie, contre l'extension d'une poulailler, contre la création d'une réserve d'eau. Mais voyez, c'est ça aujourd'hui dont les agriculteurs...
Il y a une forme d'hypocrisie à vos yeux.
Bien sûr, complètement. Et ça instaure une vraie souffrance chez les agriculteurs.
Merci Céline Imard d'avoir répondu à nos questions ce matin. Députée européenne, vice-présidente des Républicains, agricultrice dans le Tarn. Il est 7h50 sur RMC. Dans un instant, la voix de droite avec Louis Sarkozy. Bonjour Louis.
Bonjour Apolline.
Louis, de la viande 100% halal dans les fast-food et notamment chez KFC à partir d'aujourd'hui, pour vous c'est inquiétant?
Oui, le halal de KFC n'est qu'un symptôme. Le vrai sujet, Apolline, c'est l'islamisation grandissante de nos sociétés.
La voix de droite, dans un instant, sur RMC. Il est 7h51, restez bien avec nous.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, la voix de droite sur RMC. Mais d'abord, le bonus, Martin. Le groupe BTS, bientôt de retour en France. Yes.
Et oui, les phénomènes de la kebab seront sur la scène du Stade de France. Rien que ça, cet été, ils l'ont confirmé hier. Deux concerts prévus les 17 et 18 juillet prochains. Notez bien les dates. Notez aussi celle du 24 janvier. Dans 10 jours, c'est ce matin-là que les places seront mises en vente. Ça risque de partir vite. Ça fait 6 ans. Depuis juin 2019 que les BTS n'ont pas été en concert en France. En même temps, ils ont dû faire une pause de 3 ans, les 7 membres du groupe. Le temps pour eux de faire leur service militaire, il est obligatoire dans leur pays. En Corée du Sud, ils ont été démobilisés en tout début d'année. Ils ont donc annoncé leur retour avec une tournée mondiale qui passera dans 34 pays et qui passera donc par le Stade de France. Ils vont aussi sortir un album, ça c'est la première chose qui va arriver, 14 titres inédits dont la sortie pour cet album, sortie prévue le 20 mars prochain.
RMC, Apolline Matin,
voix de gauche,
voix de droite.
7h53 et comme tous les mercredis, c'est la voix de droite sur RMC. Bonjour Louis Sarkozy.
Bonjour Apolline.
Louis, l'enseigne KFC va proposer une offre 100% halal dans 24 de ses fast-food. KFC explique vouloir répondre à une demande croissante d'une partie de ses consommateurs. Ça vous inquiète ?
En soi, qu'une entreprise décide d'adapter son offre à la réalité de son marché, très bien. Le libéral économique que je suis ne souhaite certainement pas que l'État vienne régenter le comportement des entreprises privées. Mais là n'est pas le vrai sujet. Apolline, KFC n'est qu'un symptôme. Le sujet, le vrai, c'est l'islamisation grandissante de nos sociétés.
Qu'est-ce que vous voulez dire par islamisation ?
C'est que la France, Apolline, commence à ressembler de plus en plus au Liban, une société fragmentée, divisée, livrée au communautarisme et à l'obscurantisme religieux. L'islam a sa place en France, soyons très clairs, mais à une condition, qu'il se plie aux règles de la République, qu'il se soumette à nos lois, à notre histoire, à notre culture, et non l'inverse. C'est ce qu'on l'a toujours exigé, c'est ce qu'a fait le judaïsme d'ailleurs, qui prête chaque jour serment à la République, et c'est même ce qu'a dû faire le christianisme, pourtant en partie né sur notre continent.
Et pour vous, l'islam rechigne à le faire ?
Oui, une partie de la communauté musulmane de France a des problèmes sociologiques propres à cette foi. Ils sont souvent plus réfractaires que la moyenne à la liberté de conscience, à la laïcité, à l'égalité homme-femme. D'après un sondage IFOP de 2019, par exemple, 63 des musulmans de France disent que l'homosexualité est une maladie ou une perversion, contre seulement 14% des catholiques. 56% pensent une femme doit absolument obéir à son mari. Et d'après une étude Fondapol, un musulman français sur deux pense que les juifs ont trop de pouvoir dans l'économie, la politique ou les médias. Ils sont trois fois plus enclins à déclarer leur antipathie envers les juifs. L'affaire de KFC montre ceci, que nous avons affaire à des communautés de plus en plus illibérales.
Vous pensez que le combat est idéologique ?
Exactement, c'est un choc culturel et idéologique, pas du tout ethnique. Il faut d'ailleurs préserver, valoriser et faire triompher tous les Boualem Sansal, tous les Kamel Daoud du monde. Ces intellectuels qui mènent de l'intérieur le combat pour la liberté de conscience, la raison, pour l'émancipation, pour l'universalisme. À l'inverse, les facilitateurs de l'entrisme islamiste, tels que Louis Boyard par exemple, pourtant blanc comme un cierge, sont des ennemis parfaitement existentiels pour nous.
KFC, c'est le symptôme pour vous d'un combat, vous diriez une guerre idéologique ?
Absolument. Les vagues d'immigrants qui sont arrivés en France l'ont fait pour chercher une vie meilleure, plus de richesse, plus de liberté, plus d'ouverture. Ce qu'ils ne trouvaient pas chez eux, à eux aussi de veiller à ce que la France ne se transforme pas en ces pays qu'ils ont précisément fui. Le halal n'est qu'un symptôme de quelque chose de bien plus grave, la disparition progressive de ce qu'a fait la France, sa dilution, sa transformation en quelque chose de bien pire. Et ça, c'est à chaque Français de l'empêcher.
Merci Louis Sarkozy. Louis Sarkozy, la voix de droite ce matin sur RMC, comme tous les lundis et tous les mercredis. Et demain, jeudi, ce sera la voix de gauche, Cécile Duflo, qui sera à votre place. Rendez-vous à 7h50. Dans un instant, la météo et le journal de 8h. À la une du journal, aucun bovin, donc cette année toujours au Salon de l'Agriculture. L'annonce a été confirmée hier. Le salon va devoir complètement se réorganiser. On y revient. La météo, beaucoup de douceur, mais aussi beaucoup de gris. Et puis juste après le journal, ce sera l'économie avec vous, Emmanuel. Emmanuel Le Chypre, 1 milliard de plus que l'an dernier. La fraude sociale, encore en hausse cette année.
Oui, et je vous explique qui sont les fraudeurs, pourquoi et qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre cette fraude.
Restez bien avec nous, il est 7h57, à tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il est 8h, vous écoutez RMC, vous regardez RMC Story, merci d'être avec nous.
RMC,
Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Témoignage RMC dans le journal d'une ancienne élève de l'enseignant accusé de viol et d'agression sexuelle sur une trentaine d'enfants à Bordeaux. Mise en examen, placé en détention provisoire. Un enseignant qui s'était fait repérer lors d'un voyage scolaire. Nouvelles actions agricoles ce matin sur le périphérique à Toulouse. RMC est en direct sur l'autoroute entre Marseille et Toulon également. Et puis le bilan qui s'alourdit à nouveau en Iran ce matin. On parle désormais de plus de 2400 morts. Les États-Unis menacent d'intervenir.
C'est un témoignage douloureux que vous allez entendre.
Oui, témoignage RMC d'une ancienne élève de cet instituteur de Bordeaux qui enseignait dans l'école privée catholique privée Saint-Genès-Lassalle. On vous a déjà parlé sur RMC de ce père de famille de 54 ans accusé de 17 viols, de 6 agressions sexuelles, de voyeurisme aussi. Accusé en fait d'avoir sévi durant les ateliers du goût. Bérangère Bocquillon, c'est vous qui avez recueilli ce témoignage RMC d'une plaignante, donc Marianne, aujourd'hui âgée de 26 ans et ancienne élève de cet enseignant.
Marianne a 8 ans en 2008 quand son enseignant de CM1 lui propose, avec une camarade, de participer à un jeu du goût pendant la pause déjeuner.
Il nous bandait les yeux, il nous faisait goûter différents aliments avec une cuillère. Donc là, j'avais directement senti que c'était quelque chose de pas normal.
Marianne estime aujourd'hui que ce jeu visait à lui imposer une fellation, mais pendant des années, elle est dans le déni.
On nous disait que c'était pas possible. À l'école, il était adoré, tellement aimé qu'il y a beaucoup de parents qui faisaient des pieds et des mains pour que leurs enfants soient dans sa classe.
Jusqu'au jour où l'enseignant est dénoncé par des élèves qu'il avait filmés pendant leur douche lors d'une sortie scolaire. Il est alors mis en examen pour voyeurisme.
Je l'ai appris, je travaillais chez Decathlon. Il y a la radio qui passe en boucle, juste qu'il y avait une affaire de voyeurisme à Saint-Genès. Et quand j'ai appris ça, je me suis évanouie.
Marianne porte plainte le lendemain, 15 ans après les faits. Elle apprendra ensuite qu'une mère a tenté de prévenir l'établissement dès 2011.
J'en veux beaucoup. L'établissement auquel on faisait confiance, j'avais beaucoup de culpabilité de ne pas avoir assez parlé en 2008. Parce que j'aurais aimé que ça ne se reproduise pas. Mais en même temps, quand je vois que finalement beaucoup de personnes étaient au courant, je me dis que les cas, ma parole, elle aurait eu peut-être aucune valeur.
L'enseignant est incarcéré depuis 2023. Il a reconnu certains faits, mais ne reconnaît pas les viols.
Le gouvernement appelle les députés à un dernier effort pour trouver un compromis sur le budget espéré pour la fin du mois, alors que le 49-3 est demandé avec de plus en plus d'insistance par certains parlementaires. C'est aujourd'hui que sont examinées les deux motions de censure du RN et des Insoumis déposées après le feu vert donné à Bruxelles pour le traité avec les pays du Mercosur.
Et ce matin encore, les agriculteurs se mobilisent. Ils bloquent en ce moment le périphérique de Toulouse.
Oui, au lendemain des annonces du Premier ministre Sébastien Lecornu qui prémet une loi agricole d'urgence avant l'été. Donc c'est très compliqué ce matin de circuler à Toulouse avec la nouvelle action des agriculteurs. Vous confirmez, Jean-Wilfried Forquès, en direct pour RMC sur un des points de blocage.
Très très compliqué, oui, effectivement, des opérations de blocage qui ont débuté tôt dans la nuit, au milieu de la nuit, des voitures, des camions à l'arrêt, des automobilistes ulcérés que nous avons rencontrés il y a quelques minutes. L'action se poursuit sur le périphérique. Elle avait débuté de façon symbolique dans la nuit, à proximité de la préfecture de Toulouse, où une équipe de la coordination rurale a été délogée par les policiers et les forces de l'ordre. Il y a eu quelques interpellations, deux personnes seraient toujours au moment où on se parle, Quentin, en garde à vue. Et le reste de la troupe, eh bien, est parti sur un autre point pour un autre barrage filtrant qui est en cours. Barrage filtrant, cette fois à proximité de l'aéroport de Toulouse-Blagnac.
Voilà, je précise, c'est compliqué aussi de circuler entre Marseille et Toulon, donc à l'autre bout de la France, avec une opération escargot en ce moment sur l'autoroute A50. En revanche, c'est fini à Paris. Les agriculteurs qui ont passé une partie de la nuit devant l'Assemblée nationale ont levé le camp vers 5h du matin. Et alors, conséquence de la crise agricole et notamment de la maladie bovine, eh bien c'est confirmé, Romain Houck pour RMC. Pour la première fois en 60 ans, il n'y aura pas de vache au salon de l'agriculture le mois prochain. Même la vache égérie ne sera pas là.
Ben oui, Biggin était censé être la star du salon. Cette année, eh bien, cette digne représentante de la race brahmane, tout droit venue de Martinique, s'en retrouve privée. On pouvait voir sa frimousse sur toutes les affiches officielles de l'événement. Elle n'apparaîtra finalement nulle part. Les affiches vont être changées en urgence et pour cause. Il n'y aura donc ni vache, ni veau, ni taureau lors de cette édition 2026. C'est ce qui laisse un vide immense dans les allées du salon que les organisateurs vont devoir combler à un peu moins de 6 semaines du coup d'envoi. Repenser toute l'organisation du vaste Hall 1 dont la moitié est d'ordinaire réservée aux 600 bovins exposés. Quelques pistes existent déjà, faire venir des chiens de transhumance ou encore les chevaux de la garde républicaine. Alors, il y aura bien les autres animaux, chiens et chats, les porcs, les chèvres, même si déjà certains éleveurs de race ovine et porcine ont annoncé avoir pris la décision de ne pas exposer leurs bêtes par solidarité avec les éleveurs bovins. Reste à savoir quel impact tout cela aura sur la fréquentation, car nombreux sont ceux à se rendre au salon pour voir les animaux. Les organisateurs espèrent toujours rassembler, comme l'an dernier, au moins 600 000 visiteurs.
L'année 2025 a été la troisième année la plus chaude jamais enregistrée dans le monde, après 2024 et 2023 qui avaient déjà été des années records, trois fois donc d'affilée. C'est ce que on dit durant la nuit à la fois un institut américain et un institut européen. Le bilan s'alourdit encore donc ce matin en Iran. C'est l'ONG Human Rights qui parle désormais de plus de 2400 manifestants tués par la répression du mouvement de contestation depuis fin décembre. Et alors on se demande si les États-Unis vont intervenir. Antoine Hollard, vous êtes le correspondant d'RMC aux États-Unis. Donald Trump encourage les manifestants.
Oui, hier soir, Donald Trump a réuni à la Maison-Blanche son équipe de sécurité nationale, une réunion potentiellement décisive. Le président, avant cela, avait lancé un appel au peuple iranien, appel à renverser les mollahs. Il promet que de l'aide est en route, sans préciser de quelle façon les Américains vont s'engager. Il y a en fait tout un éventail de réponses possibles, des frappes, bien sûr, contre des cadres du régime ou contre les gardiens de la révolution qui mènent la répression, mais ce pourrait être un engagement plus limité, comme une cyberattaque, par exemple. Pour le moment, on ne sait toujours pas de quel côté penche la balance. Trump est resté silencieux depuis cette réunion. Une chose semble acquise en tout cas, la piste diplomatique n'est plus d'actualité. Trump dit qu'il est impossible de négocier avec le régime tant que le massacre des civils se poursuit.
C'est le dernier carré à la Coupe d'Afrique des Nations de football. Il y aura les deux demi-finales ce soir sur RMC Radio Officielle. La première à 18h entre le Sénégal et l'Égypte, forte rivalité entre ces deux pays. Et la deuxième à 21h entre le Nigeria et le Maroc à la maison, qui a la pression, Aurélien Tiersin.
La pression est énorme sur les épaules des Marocains. À domicile, deux ans après la demi-finale historique à la Coupe du Monde 2022, les hommes du coach Walid Regragui n'ont plus le choix.
Et pour marquer l'histoire, heureusement ou malheureusement, c'est les titres. Donc nous, on est dans cette dynamique depuis deux ans. On a fermé les oreilles. On sait que voilà, il nous reste deux marches. Et le prochain pas, c'est d'aller en finale.
Pour rejoindre la finale, il faudra battre le Nigeria, 17 fois demi-finaliste de la CAN, meilleure attaque de la compétition. Une bête féroce, inquiétante pour Adil Ben Malek, journaliste marocain.
Je méfiance. Pour moi, Osimhen, Lokman, Wadam, c'est un trio infernal. Pour moi, c'est le vrai test.
Et c'est un test devant un stade Moulay Abdallah de Rabat plein à craquer. Ce sera la force des Lions de l'Atlas, selon Omeyma El Rafai, reporter au Maroc.
Avec un stade de 68 000 personnes, donc bon courage. Je pense que même le Nigeria, la marche semble haute. On a la possibilité et les arguments pour la dépasser.
Les Marocains qui attendent leur première finale de Coupe d'Afrique depuis 22 ans et leur premier sacre depuis 1976.
On suivra ça ce soir sur RMC, une soirée spéciale Cannes dès 20h. Je vous signale qu'il y aura un premier hommage à Roland Courbis cet après-midi à Paris, Metz à 15h en l'église de la Madeleine avant les obsèques samedi à Marseille. Et puis il y aura trois affiches entre clubs de Ligue 1 début février. Là je parle des huitièmes de finale de la Coupe de France, notamment Marseille face à Rennes. Les Marseillais qui sont qualifiés hier soir en se baladant 9-0 contre le petit poussé Bayeux.
C'était le journal de Quentin Vinet, il est 8h08 et c'est l'heure de parler économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Emmanuel, la fraude sociale est évaluée à 14 milliards d'euros pour 2025.
Oui, et c'est un milliard de plus qu'en 2024, nous dit le Haut Conseil du financement de la protection sociale. Augmentation d'ailleurs qui est plus liée à l'inflation mécanique des coûts qu'à une intensification de la fraude qui est jugée à peu près stable. Alors, il faut bien préciser que c'est une fraude théorique, une fraude estimée, parce que les fraudes réellement détectées, c'est 2 milliards seulement, et que les fraudes évitées par les contrôles, etc., c'est 500 millions, et qu'au final, sur les 14 milliards de fraudes estimées, l'État n'en récupère que 700 millions. Alors, peut mieux faire, c'est sûr, mais ce n'est pas, en tout cas, avec ça qu'il faudra chercher la martingale pour résorber le déficit de la sécu.
Alors, les fraudeurs, c'est qui ?
Alors, les principaux fraudeurs, ce sont les entreprises. Un peu plus de la moitié de ces 14 milliards d'euros proviennent, effectivement, alors essentiellement de la dissimulation ou de la minoration des heures travaillées. C'est particulièrement vrai dans des secteurs comme le bâtiment, l'hôtellerie, restauration et les transports. C'est la faute aussi aux assurés sociaux, cette fraude. Hein. 36% de ces 14 milliards de fraudes sont imputables aux assurés sociaux. C'est des arnaques aux prestations familiales, c'est des arnaques aux aides au logement ou à l'assurance maladie. Et puis, il y a les professionnels de santé aussi, mais c'est 12% seulement de la fraude. Là, ce sont des actes facturés, mais qui ne sont pas réalisés, ou bien partiellement. C'est des prescriptions de médicaments injustifiés, c'est des surprescriptions d'arrêt de travail.
On est sur une estimation qui vous semble réaliste ou sous-estimée ?
Non, sous-estimée.
Sous-estimée,
incontestablement. D'abord parce que les heures non déclarées par les entreprises, c'est très difficile à repérer et que c'est sans doute un peu plus. Et puis ce chiffre de 14 milliards, il n'inclut pas certaines fraudes comme celles attribuées aux micro-entrepreneurs. Or, par exemple, parmi les travailleurs des plateformes qui sont des micro-entrepreneurs, 71% déclarent un chiffre d'affaires inférieur au montant des transactions enregistrées, qu'on peut vérifier par exemple avec les cartes bleues. Et tenez bien, ce montant de sous-estimation du chiffre d'affaires, il atteint 90% pour les livreurs à domicile et pour les VTC. Donc voilà. Et puis les fraudes sont aussi très difficiles à détecter chez les assurés, parce qu'en fait, c'est des petits montants. Donc c'est très compliqué d'aller les chercher et c'est extrêmement répandu. Alors que dans les entreprises, il y a peu d'entreprises qui fraudent, mais ce sont des plus gros des plus gros montants. Alors il y a des progrès qui sont quand même envisageables. Hein, grâce au croisement automatique des fichiers, par exemple, ou à la détection avec l'intelligence artificielle des incohérences entre les revenus et les dépenses, ça marche, mais effectivement, c'est pas avec ça, encore une fois, qu'on résoudra
on est loin
le problème
du
de déficit.
Compte, et effectivement, François Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France, qui est mon invité dans 15 minutes sur RMC et BFM TV dans le face-à-face, il cherche des milliards. Hein. Il dit qu'il faut absolument qu'on repasse sous la barre des 5% de déficit. Je suis pas sûr qu'il va vraiment trouver cela, semble-t-il. Merci en tout cas, Emmanuel Le Chip. 8h11.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, Arnaud Demanche nous rejoint à 8h30. Je le disais, mon invité, c'est François Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France. Il nous dira comment va la France, l'économie française. Et juste après, Nicolas Canteloup, comme chaque matin, face à Canteloup, c'est à 8h50 sur RMC. Il est 8h11, restez bien avec nous.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Arnaud Demanche qui est avec nous, salut Arnaud.
Bonjour Apolline, bonjour aussi à nos 90 000 nouveaux auditeurs qu'on va saluer.
Bravo.
Un par un. Il y a Pauline Duchemin, boulangère à Creutzwald, Roger Froussard, pompier à Nantes, Sybille Veil, directrice à France Inter à Paris, qui nous écoute en disant mais comment ils font pour monter autant?
Où trouvent-ils tant d'énergie?
Cette énergie. On les embrasse tous. Allez, l'actu, ce sont les municipales à Paris et un sondage donne Rachida Dati derrière le socialiste Emmanuel Grégoire. Elle doit être vénère, Rachida, parce que le contrat de base, c'était j'accepte d'être ministre de la Culture dans des gouvernements pourris et en échange, je suis élu à Paris dans un fauteuil. Et en fait, ça va pas être si simple, c'est l'arnaque. Elle s'est fait avoir. Pendant 2 ans, elle s'est enfilé des pièces de Bertolt Brecht en allemand, qui durent 7 heures à Avignon, avec des comédiens de Düsseldorf entièrement nus, qui font rouler des pneus de tracteur sur lesquels il y a marqué Cosmos éternel en grec ancien. Quand j'ai voulu revisiter le mythe de Sisyphe qui pousse le poids de la culpabilité entièrement nu devant les dieux de l'Olympe. Oh, ta gueule! Madame la ministre, faut pas qu'on traîne. On a rendez-vous à la Biennale d'art contemporain de Belfort. Il y a un artiste slovaque qui se cloue le scrotum sur le portrait de l'ayatollah Khomeini pour dénoncer la situation en Iran. Oh, comme vous avez de la chance! J'aimerais assister à quelque chose d'aussi puissant. Toi, vraiment, ta gueule! Donc, tout ça, subir tout ça pour se faire battre par l'ancien adjoint d'Anne Hidalgo. Mais Paris est trop à gauche, Rachida. Voilà, faut qu'elle boboïse son discours. Faut qu'elle fasse merci à tous, point E, point S, point tout, d'être venu, point E, à l'inauguration de cette place Christiane Taubira. Car ce n'est plus la place de la Concorde, c'est ta place, Christiane, qui sera d'ailleurs végétalisée. On va mettre 4 bacs à géranium remplis de mauvaises herbes, comme le faisait Anne Hidalgo. Putain, ils sont contents ces cons. Alors, le Ritz sera transformé en friperie vintage où on vendra des vinyles à 50 euros et il y aura une fontaine à kombucha. Ah, ils sont encore contents. Eh. C'est plus pro-Hidalgo, là, c'est le syndrome de Stockholm.
Procès en appel de Marine Le Pen pour détournement de fonds publics se poursuit.
Oui, alors je lisais la presse hier, il y a une possibilité qui est vraiment rigolote, c'est qu'elle soit condamnée, mais sans la peine d'inéligibilité. Ah. Autrement dit,
Marine Le Pen pourrait être autorisée à faire campagne pour l'élection présidentielle, mais avec un bracelet électronique. Ce serait hilarant. Ce serait hilarant en campagne en banlieue. Madame Le Pen, bienvenue dans ce commissariat. Vous voyez, on a un problème avec la délinquance en ce moment.
Oh pardon, excusez-moi, c'est mon bracelet. C'est votre commissariat qui est trop loin de mon commissariat.
Du coup, elle va faire une télécampagne chez elle, sur Zoom.
Oh, désolé, j'aurais adoré inaugurer la foire à la saucisse de Montluçon, mais je suis coincé chez moi, vous comprenez. Les juges rouges, elle va y prendre goût, hein. Visiter un méthaniseur de lisier de porc en Meurthe-et-Moselle. Oh, j'aurais tellement aimé, c'est bête. Raphaël Glucksmann, il va dire, ouais, moi aussi, j'ai détourné des sous. Je suis obligé de sortir du 6e arrondissement. Je peux plus, là, c'est con.
Mattel va sortir une Barbie autiste.
Oui, on avait déjà eu plusieurs Barbie de ce genre, porteuses de handicap, hein, la Barbie trisomique, la Barbie aveugle, la Barbie en fauteuil roulant, la Barbie Picarde avec ses cinq enfants issus de quatre Ken indifférents qui refusent de verser une pension. Et ben là, la Barbie autiste et chez Chine, c'est branle-bas de combat. On va pas se laisser bouffer par des parts de marché par ces camps d'Américains. Appelez le BHV, dites-leur qu'on envoie des poupées sexuelles en fauteuil roulant et des trisomiques gonflables. Et là, t'as Frédéric Merlin, le patron du BHV. Yes ! De quoi rebooster les ventes. Alors oui, en tant qu'humaniste, ça me choque. Mais bon, ça se vend, hein, ça se vend. Il va aller au BHV voir les clients. Bonjour monsieur, une poupée myopathe, s'il vous plaît. Vous me dégoûtez. Elles sont là. 550 euros, s'il vous plaît. Ah, j'ai honte de toucher cet argent, monsieur. Si on faisait pas autant de marge, ça se passerait pas comme ça. En tout cas, c'est l'occasion d'un petit quiz, oui. Apolline. Ah. Attention, oui. Ce jouet a-t-il vraiment existé, oh là là, ou pas? Est-ce qu'on a fait ce jouet? Top, c'est parti.
J'ai peur.
Un kit de soldat de plomb à faire soi-même, c'est-à-dire que les enfants devaient faire fondre du plomb à 3000
degrés. Eh ben, c'est tout à fait possible.
Oui, c'est vrai, ils l'ont fait. Le Cluedo Bétaram. Qui a agressé Théo dans la chapelle avec le chandelier? Non, ils ne l'ont pas fait. Un kit de petit chimiste avec de l'uranium. Ils l'ont fait. Ça a été vendu dans les années 50. Le Monopoly Sarkozy avec 30 cases prison. Non, ils l'ont pas fait. La poupée pole danseuse.
Bah, peut-être.
Oui, ils l'ont fait. Oui, ça existe. Des figurines de chats écrasés avec les tripes qui sortent vraiment.
Si.
Le pistolet en plastique pour jouer à la roulette russe rigolote. On se le met sur la tête.
Bah, oui.
Oui, ça a été fait, bien sûr que si. Bravo Apolline, vous avez gagné.
Merci Arnaud, vous retrouve tous les jours en direct, 7h20, 8h20, et à tout moment en podcast, bien sûr. Ah tiens, et puis vous partez en tournée.
Oui.
En tournée partout en France avec un nouveau spectacle. Vous serez à Nice, à Aix-en-Provence, à Caen, à Rouen, à Versailles, à Toulon. Un spectacle RMC. Versailles, vous allez à la maison.
Ouais, oui, à domicile, je joue à domicile. Régional de l'État.
Il est 8h20 au 32-16. Il y a Mohamed qui voulait réagir à la chronique tout à l'heure de notre voix de droite, Louis Sarkozy. Vous m'entendez, Mohamed?
Oui, bien sûr, je vous entends tout à fait.
Bonjour Mohamed, chauffeur poids lourd dans la région de Bordeaux. Louis Sarkozy qui réagissait à la promesse du restaurant KFC d'ouvrir 24 restaurants halal. Eh pour ben, lui, pour c'était moi, une islamisation, mais pour vous, non?
Non, pour moi, non, pas du tout. Après, faut pas non plus à chaque fois tout remettre sur la faute de l'islam. Après, faut voir économiquement, ce qui est logique. Arrive un moment, on est commerçant, on regarde ce qui rapporte le plus dans notre
poche. L'offre et la demande.
Exactement. S'il a sa clientèle qui lui demande et que ça lui permet de tenir ses restaurants ouverts, faire continuer de travailler ses salariés, et rendre heureux plusieurs personnes, ben c'est pas une islamisation. C'est au jour d'aujourd'hui, faut pas se voiler la face. Si le poulet halal, il est moins cher, il y a aucun restaurateur qui va vous dire non, mais moi par conscience, je vais virer 2-3 personnes pour faire plaisir aux autres. Comme ça, je continue à acheter le poulet à 5 € le kilo alors qu'on me le propose à 2 € le kilo. Façon de parler. Bah non, ils vont regarder.
Pour vous, c'est une question de prix, d'offre et de demande. Vous mangez halal, vous, Mohamed?
Je mange halal. Ouais. C'est une question de prix, de principe. Mais vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, il y a déjà plein de KFC. Bon, ils le disent pas ouvertement, mais qui sont déjà passés au halal. Des flunch. Vous avez la flunch, c'est pas marqué halal.
S'ils le disent maintenant, c'est parce que c'est presque devenu un argument, presque marketing,
exactement.
Quoi.
Exactement. Mais vous regardez, les fast-food Quick, par exemple. Ils ont fermé, plupart, ils ont fermé. Ils ont été rachetés par la grande marque Burger King.
Ouais. Okay.
Burger King a fait son pain. Et au jour d'aujourd'hui, il y a plein de Quick qui rouvrent, mais directement 100% halal. Et bizarrement,
il remarche du tonnerre, alors qu'avant, il faisait faillite, il était en vente.
Donc, c'est vraiment une question d'offre et de demande. Mohamed, je trouve ça très intéressant d'entendre justement tous les points de vue. Louis Sarkozy, tout à l'heure, vous, ce matin, qui nous écoutez, qui réagissez, qui appelez au 3216. Merci Mohamed, il y aura plein de trucs à se dire, on pourrait en reparler plein de fois, n'hésitez pas à rappeler. Je vous avais eu déjà en ligne, non Mohamed?
Bien sûr. Est-ce que je peux vous dire quelque chose, s'il
vous plaît ? Allez-y.
Je vous donne le score ce soir. Le score, non. Ce soir, c'est le Maroc qui gagne et le Sénégal qui gagne. C'est le Sénégal qui gagne.
Allez, merci. C'était donc les prévisions de Mohamed. Il est 8h22 sur RMC et sur RMC Story. Dans un instant, ça se passe sur RMC et BFM TV. Mon invité, c'est le gouverneur de la Banque de France. Alors oui, dit comme ça, ça paraît très austère, mais vous allez voir, c'est passionnant. C'est lui qui ausculte la France. C'est vraiment notre docteur. Alors, quel est le symptômes, quel est le diagnostic et quel est le remède sur l'économie française ? Réponse dans un instant avec le gouverneur de la Banque de France. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Et le rappel des titres, Élise Dangean.
La France des agriculteurs scindée en deux. À Paris, ils ont levé le camp tôt ce matin, satisfaits de leur rencontre avec leur ministre hier soir. Mais dans le sud, les blocages reprennent de plus belle sur le périphérique toulousain, à l'aéroport de Blagnac et sur l'autoroute A50 en direction de Marseille. Et puis c'est une décision historique. Il n'y aura cette année aucun bovin au salon de l'agriculture, conséquence de l'épidémie de dermatose nodulaire. Ce soir, c'est le début des demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations à 18h Égypte-Sénégal et à 21h Maroc-Nigéria. Côté météo, le temps est souvent gris et faiblement pluvieux. Il y aura quand même du soleil sur les Alpes. Côté température, elles sont toujours au-dessus des normales, comprises entre 10 et 17 cet après-midi.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
8h28 sur RMC et BFM TV. Bonjour François Villeroy de Gallo.
Bonjour Apolline de Malherbe.
Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions et surtout nous dire comment va la France. Vous êtes gouverneur de la Banque de France, la France qui n'a toujours pas de budget, les discussions patinent, on n'est toujours pas sûr, peut-être 49-3, peut-être vote. Ils discutent en ce moment à l'Assemblée. Vous avez même parlé d'une sorte de façon de jouer avec l'impôt. Vous avez dit il faut arrêter de jouer avec l'impôt. Je vais vous interroger sur ce budget, mais au fond, j'ai envie de vous poser une question très large comme un docteur. Comment va la France dans ce contexte ?
Alors la France, c'est notre pays que nous aimons tous et c'est nous tous. Moi, si je devais reprendre votre image, d'abord, je pense que notre morale n'est pas très bon. On le voit dans l'instabilité politique, dans toutes les querelles, etc. Notre corps va plutôt mieux quand on regarde notre santé économique. Nous venons de publier notre enquête de conjoncture. Elle montre une résilience de l'économie française. Donc si je pousse l'image, je dirais que notre corps va plutôt mieux que notre tête. Et puis il y a notre portefeuille. Alors ça, c'est la question du budget. Je parle pas de la situation financière de chacun, mais la situation financière du pays. Là, il y a trop de déficits, trop de dettes, et il faut absolument qu'on s'en occupe. On a d'ailleurs les moyens de s'en occuper.
Donc on a les moyens de s'en occuper. On va revenir dans les détails de ce qui va bien, parce qu'effectivement, vous le dites, finalement, ça va peut-être pas si mal, en tout cas du côté notamment des entreprises. Mais qu'est-ce que vous dites aux députés qui, en ce moment même, sont à l'Assemblée, en train à nouveau de discuter, de repartir presque à zéro de ce budget qui n'en finit pas? C'est quoi la priorité, là?
Alors moi, je vais pas dire aux députés ce qu'il faut
bien
faire.
Bien sûr, ça, chacun son rôle, mais enfin...
C'est le débat de la démocratie.
Mais je leur crois dire ce qu'il faut faire pour que la France aille mieux.
Avec l'indépendance de la Banque de France, ce qui est souhaitable, c'est de continuer à réduire les déficits. On va peut-être dire un tout petit mot des chiffres dans le bulletin de santé. Notre déficit, là, en 2025, il est probablement à 5,4% du PIB rapporté à la taille de l'économie. Il faut qu'on aille à 3% d'ici 2029. Pourquoi 3%? C'est nos engagements européens, mais c'est surtout, Apolline de Malherbe, le seuil qui nous permet enfin de stabiliser le poids de la dette. Alors si on doit aller dans cette direction d'ici 2029, il faut une nouvelle réduction en 2026, là, cette année. Or, on n'a pas encore de budget.
Oui.
Et tant qu'on n'a pas de budget, on n'a pas de réduction du déficit. Ce qui est, me paraît à la fois indispensable et atteignable, c'est que le budget 2026, le déficit 2026, soit au maximum de 5%. Donc, vous voyez une nouvelle réduction. Au-delà, je suis obligé de dire, avec un peu de gravité, qu'avec un déficit supérieur à 5%, la France se mettrait dans la zone rouge, dans la zone de danger par rapport aux prêteurs internationaux, aux marchés financiers.
Ça veut dire quoi, la zone de danger? Quelles pourraient être les conséquences?
Alors, on surveille évidemment les marchés financiers, la confiance que nous font les investisseurs internationaux. Malheureusement, cette confiance a diminué depuis la dissolution de juin 2024.
On n'en parle plus tellement, on se dit, bah ça tient, Moody's, oui, alors je les crois, notes.
Voilà, non mais vous avez raison.
Est-ce que c'est vraiment si grave?
Il faut pas se dire que le calme d'aujourd'hui est un calme pour toujours. Parce que les marchés peuvent se retourner brutalement et il peut y avoir, je le souhaite évidemment pas, mais au-delà de 5% de déficit, il peut y avoir un enchaînement négatif. L'Europe qui reprend des procédures de sanctions contre la France, parce que nous n'aurions pas tenu les engagements que nous avions pris. Des agences de notation, vous en parliez, qui nous dégradent à nouveau. Et du coup, des investisseurs internationaux qui sont très volatiles, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils peuvent repartir vite. Il y a notamment des investisseurs très court terme, ce qu'on appelle les hedge funds. Donc, nous sommes dans une situation mondiale de grande instabilité. On va sans doute parler des politiques américaines. Dans cette situation-là, ne prenons pas le risque d'un retournement des prêteurs à la France.
Qui pourrait avoir des conséquences assez rapides et des conséquences en chaîne. C'est là-dessus que vous alertez.
Ça a d'abord, évidemment, des conséquences sur le budget, parce que si la France trouvera toujours des prêteurs, la France ne fera pas faillite.
Mais le problème, c'est à quel prix?
Et le problème, c'est exactement à quel prix. C'est pour ça que j'ai parlé d'étouffement budgétaire. C'est que nous risquons d'emprunter de plus en plus cher. Ça, c'est la première conséquence. Nous devons payer de plus en plus d'intérêts de la dette. Mais ça a aussi des conséquences pour tous les acteurs économiques en France. Pour les entreprises qui ont des crédits pour investir et pour les ménages encore plus qui ont des crédits immobiliers.
Vous avez dit, arrêtons de jouer avec l'impôt. Qu'est-ce que ça veut dire? Et est-ce que vous qui pourtant, il y a un an, et je me souviens de vous avoir reçu à ce même micro, aviez plutôt plaidé pour une hausse de la fiscalité sur les très hauts revenus, est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui ça a été trop loin? Un des points d'achoppement en ce moment, c'est la question de l'impôt qui ne devait être que ponctuel sur les très gros revenus des principales grandes entreprises. Et là-dessus, ça coince parce que la droite en veut pas, parce que la gauche en veut.
Oui, alors là, il faudra un compromis politique. Là, on vient, si vous voulez bien, sur l'autre aspect de ce budget, c'est que les 5%, c'est indispensable, mais je crois que c'est atteignable. Et qu'au fond, il faut un cocktail, enfin un alliage. Il faut d'abord essayer vraiment de stabiliser les dépenses. Nous avons aujourd'hui, en France, les dépenses les plus élevées, non seulement d'Europe, mais du monde. Et alors, sur l'impôt, je crois qu'il faut à la fois le rendre plus stable et plus juste. Il y a des mesures de justice encore possibles et il y a probablement besoin de certaines mesures ciblées, exceptionnelles, comme ce que vous disiez, c'est-à-dire la surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises. Ça, je l'ai dit et répété. Je le dis d'ailleurs sans enthousiasme, mais c'est nécessaire. Au-delà de ça, effectivement, la sagesse, c'est d'essayer de stabiliser au maximum l'impôt.
Vous le disiez en préambule, ça va pas si mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Les entrepreneurs, pour la première fois, on les entend énormément. Jusqu'à présent, ils estimaient que la politique, c'était la politique. Bon, là, on l'a entendu le MEDEF, on a entendu un certain nombre de grands patrons qu'on voyait pas sur les plateaux venir se plaindre de la situation, à la fois de la folie budgétaire à leurs yeux. Trop, c'est trop, disent certains patrons. C'est le titre d'ailleurs d'une tribune qui reparaît au nouveau aujourd'hui dans le journal L'Express. Et c'est aussi l'idée de l'instabilité, du manque de perspective. Mais dans le même temps, ils s'en sortent pas si mal, les entrepreneurs français.
Alors d'abord, sur la stabilité, il y a la stabilité fiscale dont on parlait. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas certaines hausses d'impôts limitées, mais il faut arrêter d'improviser tous les 8 jours. Il y a la stabilité politique qui est souhaitable. Mais c'est vrai qu'au milieu de cet environnement, l'économie française résiste plutôt bien. Nous faisons une enquête chaque mois auprès de 8500 entrepreneurs sur le terrain, grâce aux femmes et aux hommes de la Banque de France. Cette enquête, nous l'avons publiée hier soir. Et qu'est-ce qu'elle dit? C'est que sur l'ensemble de l'année 2025, la croissance devrait être d'au moins 0,9, parce que nous avons un tout petit peu réévalué la croissance attendue au dernier trimestre,
quatrième trimestre 2025. Quand vous dites au moins 0,9, si on est tout à fait précis, il me semble que dans vos dernières prévisions, vous disiez elle sera peut-être de 0,9. Si vous dites au moins, 0,9 était un plafond, 0,9 serait désormais un plancher.
Alors, on ne disait pas peut-être, mais maintenant on dit effectivement au moins, donc c'est un plancher. Ça vaut aussi au moins 0,2 sur le dernier trimestre de l'an dernier. Et alors ça, c'est le courage des entrepreneurs que je salue, qui continuent à prendre des risques, à investir. Et puis, c'est le travail des Français. On ne le dit pas assez, mais il n'y a jamais eu autant de Français au travail, en nombre d'heures travaillées. Et les Français travaillent plutôt bien en termes de productivité par heure. Je crois que ça reflète aussi un certain nombre d'atouts structurels dans la durée de l'économie française. Nous sommes plutôt une économie de services. à l'intérieur de l'industrie qui souffre beaucoup en Allemagne, par exemple la spécialisation française, l'aéronautique, la défense est plutôt porteuse. Et puis nous sommes moins exposés à la grande exportation vers les États-Unis, donc on souffre moins des tarifs de Monsieur Trump, ou vers la Chine, on souffre moins des tensions avec la Chine. Voilà, pour autant, l'incertitude nous coûte par rapport à ces 0,9. Nous estimons que l'incertitude politique, budgétaire, ça coûte au moins 0,2 points de croissance à la France.
Ça veut dire qu'on serait...
On serait au-delà de 1%, et on devrait d'ailleurs globalement...
S'il n'y avait pas eu ces méandres politiques.
Voilà, et puis globalement, on devrait faire beaucoup mieux sur la croissance. Autour de 1%, ça n'est pas suffisant.
Mais quel gâchis.
Oui, alors ça ne tient pas qu'à l'incertitude politique.
Non, mais je sais bien aussi... que quand je me lance dans ce genre de mots, ça vous fait peur. Vous ne voulez pas forcément avoir l'air de...
J'ai parlé moi-même de l'instabilité politique, mais je crois que c'est important de voir... À côté de ça, un problème qui concerne toute l'Europe, et là pas seulement la France, qui est que nous ne mobilisons pas assez nos ressources. On a ce défi américain, on a la nouvelle administration autour de Monsieur Trump, on en parle tous les matins, entre nous peut-être un peu trop. On ne peut pas changer l'autre côté de l'Atlantique, mais nous devons changer notre côté à nous. Les Européens ont plein de ressources, ils ont une épargne abondante, ils ont un grand marché, ils ont un réservoir de talents humains et de jeunes, on va peut-être parler des jeunes, formidable. On a en plus la feuille de route, c'est ce qu'on a appelé le rapport Draghi de 2024. Réveillons-nous, mobilisons-nous, Monsieur Trump doit servir à cela.
Je me souviens en particulier, lorsque je vous ai reçu il y a un an, vous citiez ce même rapport Draghi, et à propos de la France, vous disiez il n'y a pas assez d'investissements et il y a surtout trop de normes. Quand vous voyez la colère agricole ces derniers temps, et effectivement le fait de regarder beaucoup les États-Unis ou l'Amérique du Sud... ou Bruxelles, en disant que c'est un peu la faute de tout ça à la fois. Est-ce que c'est pas surtout la faute de nos propres politiques qui ont effectivement étouffé, je reprends votre mot, un certain nombre de nos agriculteurs avec des normes, avec des contraintes, avec une fiscalité beaucoup plus lourde que celle de nos voisins?
Alors, il y a un peu de tout ça. Il faut se méfier des solutions trop simplistes. Au passage, sur le Mercosur, moi je comprends parfaitement la crise agricole et il faut qu'on la traite, mais je ne crois pas que l'absence de Mercosur résoudrait les problèmes de certains secteurs agricoles.
On a fait du Mercosur un bouc émissaire,
un peu facile. Un bouc émissaire où c'est devenu un symbole. Notre débat a trop de symboles simplistes. Maintenant, sur l'histoire des normes et des simplifications. Il faut aller dans le sens des simplifications, je le dis depuis très longtemps. Pour autant, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On ne va pas autoriser tous les pesticides. Ou si je prends un autre domaine dont la Banque de France a directement la charge, on va pas déréguler tout sur le plan financier. Ce que préparent les Américains risque de semer les germes d'une prochaine crise financière. Donc, comme dans beaucoup de choses, il faut un dialogue entre des objectifs qui peuvent être contradictoires et il faut trouver des compromis, un terrain raisonnable. C'est vrai pour le budget, c'est vrai pour les normes.
Vous dites, d'ailleurs, François Villeroy de Galhau, d'un côté, bon, on parle peut-être un peu trop des États-Unis, c'est un peu trop facile de se dire que ce serait une catastrophe, que tout irait mal, parce qu'au fond, c'est aussi à nous de prendre notre destin en main. Et en même temps, vous lancez un peu des bombes comme ça qui sont très inquiétantes en disant qu'ils sont en train de préparer ce qui pourrait conduire à une crise financière mondiale.
Alors, je ne lance pas des bombes. J'ai déjà dit, avec beaucoup de mes collègues d'ailleurs, que on a eu des crises financières dans le passé, donc avoir des normes de sécurité en matière financière, c'est nécessaire. On va les garder en Europe, et ça protège l'Europe. J'espère beaucoup que les Américains trouveront un point raisonnable. Au passage, il y a eu ces derniers jours une attaque forte contre l'indépendance de la Banque centrale américaine.
Vous savez
quoi ? Son président Jay Powell, ça, je crois, ça fait aussi partie des dangers.
Eh bien, justement, François Villeroy de Galhau, votre homologue américain, il a répondu, c'est rarissime, à effectivement ce qu'il estime être des attaques personnelles et contre l'indépendance de la banque américaine. Écoutons ce qu'il dit, Monsieur Powell.
La menace de poursuites pénales est une conséquence du fait que la réserve fédérale fixe les taux d'intérêt en se basant sur notre meilleure évaluation de ce qui servira l'intérêt public plutôt qu'en suivant les préférences du président. Il s'agit de savoir si la Fed pourra continuer à fixer les taux d'intérêt ou si au contraire la politique monétaire sera dictée par des pressions politiques ou des intimidations.
Jérôme Powell qu'on vient d'entendre, c'est le François Villeroy de Galhau des États-Unis. Qu'est-ce que vous dites effectivement? Vous le soutenez? Est-ce qu'il y a un vrai danger dans cette séparation, dans le non-respect de la séparation, de l'indépendance?
Je le soutiens totalement. D'abord sur le plan personnel, il se trouve que je le connais bien, nous nous voyons régulièrement. Je peux dire que c'est un modèle d'intégrité et d'engagement public. Et puis, il y a les attaques contre la Fed, la Banque centrale elle-même. Et là, c'est une question très importante, c'est la question de l'indépendance. C'est-à-dire que les banques centrales doivent fixer les taux d'intérêt sans instruction du politique. C'est ça le cœur du débat. Je crois qu'il faut dire un mot de cette indépendance qui vaut pour la Banque de France, la Banque centrale européenne avec Madame Lagarde, comme pour la banque américaine. L'indépendance, c'est pas une chose que les banquiers centraux ont décidé un matin en se disant, tiens, ça serait plus sympathique si nous étions indépendants. C'est dans l'intérêt des citoyens. Pourquoi? Parce que d'expérience, une banque centrale indépendante lutte mieux contre l'inflation. C'est pas un hasard. Vous savez, l'inflation aux États-Unis, elle vient de paraître, là, 2,7%. Elle est plus de 3 fois supérieure à ce qu'on a en France, à 0,8. C'est lié aux tarifs de M. Trump. Mmh. Il a augmenté les droits de douane, du coup les biens importés coûtent plus cher. Mais la Fed est là pour lutter contre l'inflation. Les Américains sont extrêmement sensibles au niveau trop élevé de l'inflation là-bas. Ça semble d'ailleurs conduire à une impopularité des tarifs et de M. Trump. Et dans le même temps, on voudrait casser l'instrument qui permet de lutter contre l'inflation, c'est la Fed. Je crois que c'est très grave et que l'indépendance, elle est pour le bien des citoyens, que ça soit aux États-Unis ou en France et en Europe.
La question des taux et la question de l'inflation, ici, est-ce que les taux vont baisser ou continuer à se stabiliser? Et j'aimerais qu'on parle aussi de l'épargne et de l'inflation. Sur les taux d'abord.
Alors, sur les taux, nous avons beaucoup baissé les taux sur l'euro. On était à 4% en 2024. On est descendu à 2% aujourd'hui. Au passage, beaucoup plus bas qu'aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. Mais ce qui compte pour les Français, c'est souvent les taux du crédit immobilier. Alors, après avoir beaucoup baissé, ils sont stabilisés depuis quelques mois, un peu plus de 3% en moyenne. Du coup, les Français reviennent emprunter. On est à plus 35% de nouveaux prêts immobiliers en 2025 par rapport à l'année précédente. Mais je crois que c'est un bon moment pour emprunter parce qu'effectivement, la baisse des taux du crédit
donc
immobilier s'est arrêtée.
Donc, vous leur dites continuer à emprunter
Ça dépend des projets de chacun, mais c'est un très bon moment pour aller emprunter et mettre les banques en concurrence.
L'épargne des Français est très haut. C'est pas tellement une bonne nouvelle d'ailleurs ça.
Oui, c'est lié d'ailleurs à l'instabilité, à toutes les incertitudes dont on parlait.
Il est notamment sur le livret A, et ça c'est vous qui en avez aussi la charge. Est-ce que le taux du livret A pourrait monter?
Alors, sur le livret A, la Banque de France fait la proposition, et c'est ensuite le ministre des Finances, Roland Lescure, qui décide. Il se trouve que c'est demain. Apolline de Malherbe, parce que ça dépend des chiffres définitifs d'inflation sur décembre qu'on aura demain matin. Donc, réponse demain matin. Ce que je peux dire, c'est que les taux du livret A, qui pourraient baisser un peu, mais devraient rester nettement supérieurs à l'inflation, et à l'inflation à 0,8. Et c'est encore plus vrai d'un produit dont on ne parle pas souvent, mais qui est encore plus intéressant, qui est livret d'épargne populaire. Il y aura un avantage plus marqué.
Donc, nettement supérieur à l'inflation. C'est ce que vous pouvez nous dire ce matin. François Villeroy de Gallo, l'inflation, justement, elle est stable désormais. Il n'y a pas de crainte qu'elle remonte.
Elle est très basse en France. Elle est même inférieure à la plupart de nos voisins. Les chiffres, c'est 0,8 en France et 2%, exactement notre objectif, pour la moyenne de la zone euro. Ça veut dire du pouvoir d'achat pour les Françaises, ça veut dire des taux qui restent favorables, ça veut dire aussi un avantage de compétitivité, c'est-à-dire pour les productions françaises par rapport aux productions de nos voisins, l'Allemagne, l'Italie, etc. Elle pourrait remonter un petit peu en France, mais dans le même temps, les salaires, les retraites, etc. augmentent, donc ça veut dire que le pouvoir d'achat, encore cette année, va être plus que préservé. Moyenne, toujours.
Vous l'avez entendu, la France, pour la première fois, il y a plus de morts que de naissances. Et dans le même temps, c'est presque la double peine. On redécouvre, à travers vos analyses, que le gouvernement et les différents politiques font toujours quasiment le choix des plus âgés vis-à-vis des plus jeunes, de la jeunesse, des actifs. C'est encore le cas aujourd'hui et ça vous inquiète?
Alors ça, c'est une question très importante. Je n'ai rien contre les seniors, Apolline de Malherbe. Je dois avouer que j'en suis un moi-même.
C'est la coquetterie de dire votre âge, si vous le souhaitez.
Je peux avouer que j'ai 66 ans. Voilà. Donc, les seniors, ils ont pris part à tout le développement du pays et ils méritent évidemment toute considération. Le problème que nous avons, c'est qu'il y a quand même un sujet un peu de répartition entre les seniors et les jeunes. Et que là, ces derniers temps, nous faisons systématiquement le choix des seniors plutôt que des jeunes dans le débat budgétaire. Le Parlement, qui nous représente, a choisi d'indexer complètement les dépenses de retraite, d'avoir plus de dépenses de santé et de financer ça par plus de déficit. Ça, c'est effectivement la double peine pour les jeunes. Parce que ces dépenses qu'on fait pour les seniors, on peut du coup pas les faire pour la jeune génération. On a moins pour l'éducation, pour le climat, pour la recherche, pour tout ce qui prépare l'avenir. Puis comme on a plus de déficit, nous leur transférons la facture à nos enfants et petits-enfants, à des générations qui viennent. Vous savez, nous sommes un peu dans la situation de gens sympathiques, etc., qui sont au restaurant, qui se font un très bon déjeuner, qui ne lésinent pas sur le dessert, les plats supplémentaires, la boisson, et puis arrive l'addition, on dit, ah ben ça, si vous voulez bien, vous laisserez l'addition aux clients qui arriveront après nous, aux générations qui arriveront après nous. Ça ne peut pas durer comme ça. D'habitude, les parents, les grands-parents aident leurs enfants. Ça reste vrai individuellement, mais collectivement, c'est le contraire. On transfère nos charges. C'est pour ça que j'ai parlé de budget gérontocratique. Vous savez, là, il faut revenir à Molière. Dans Les Fourberies de Scapin, Géronte, c'est le seigneur de l'époque. Molière est pas très gentil avec lui. D'ailleurs, là, je défends le seigneur. Mais il faut penser, effectivement, à ceux qui viennent. Alors, dans Molière, je crois qu'il s'appelle Octave et Hyacinthe, la fille de Géronte. Pensons un peu à eux dans nos choix budgétaires. C'est notre intérêt.
Pensons à la fille et à la petite fille donc de Géronte. En tout cas, François Villeroy de Gallo, merci d'avoir fait le point avec nous ce matin, gouverneur de la Banque de France. Il est 8h47 sur RMC BFM TV. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50. Face à Canteloup.
Tous les matins, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. François Villeroy de Gallo était mon invité ce matin. Bruno Le Maire, vous souhaitiez réagir à cette interview. Bonjour.
Bonjour, Madame Malherbe. J'ai envie de vous dire félicitations.
À vous.
C'est très beau ce que vous avez fait. Ce matin, d'offrir son micro même aux plus démunis. J'étais très touché en écoutant ce monsieur sans le sou.
Bon, il est pas sans le sou, c'est François Villeroy de Gallo, il est à la tête de la Banque de France.
Oui, c'est ce que je dis, à la tête de la Banque de France. Hein, 0 euros, 0 centimes. Hein, hein. Il est même à la tête de moins 3600 milliards. Ça commence à faire un beau découvert. Hein. Je comprends ses propos, le pauvre est fauché. Hein. Vous savez quoi? Il a peut-être même faim. Est-ce que Mme Malherbe, vous lui a proposé un croissant, un bout de pain, quelque chose?
Je crois, j'espère.
Vous savez, Monsieur de Gallo, vous êtes en face de moi. J'entends votre détresse, mais il y a des solutions. Je ne sais pas, moi, jouer de l'accordéon dans le métro. Hein. Bon, c'est vrai que les Français n'auront pas de sous à vous donner, mais les touristes, peut-être.
Bon, vous êtes quand même un peu gonflé, Monsieur le maire. C'est un peu de votre faute si la Banque de France est dans cet état, non?
Concerne ma faute. Attendez, moi je suis venu pour aider, hein, Mme Malherbe. Oh, pensez pas. Hein, on est là pour avancer, pour chercher des solutions. Dire c'est la faute à machin ou la faute à truc. Et ça m'arrange, en plus de pas le dire. Hein. Mais j'assume, Madame Malherbe, droit dans les yeux, j'ai dépensé. Mais bon, c'était quand même lui le chef des banquiers. Hein. Quand en face de vous, vous avez un banquier qui vous autorise un découvert de moins de 3000 milliards, bah, vous faites plaisir, on n'est pas con non plus. Hein. Mais je lui dis quand même, avec beaucoup de compassion, courage François, hein, tu peux t'en sortir. Tu vois, tu as une cravate moche, tu peux la vendre sur Vinted. Hein. Sinon, tu peux, je ne sais pas, moi, peut-être dessiner des touristes à Montmartre, hein, ou vendre des marrons grillés sur une grille. Ou, je sais qu'il aime le vélo.
Ah oui.
Hein? Mais je sais qu'ils embauchent aussi sur Uber Eats. Hein? Je dis courage, mon François.
Bon, allez, arrêtez. On n'en est pas là quand même, monsieur le maire. C'est pas du tout les propos de monsieur Villeroy de Gallo, qui d'ailleurs est toujours avec nous. Tiens, j'aimerais qu'il nous éclaire sur la crise agricole.
Oui, bonjour madame de Malherbe. Écoutez, c'est bien que vous m'interrogiez, moi, le Jerome Powell français, pour le français, le senior que je suis, oui, car oui, madame de Malherbe, je suis un senior, oui, mais j'ai 66 ans, je sais que je ne l'ai fait pas, vous auriez donné bien 72, mais non. Voilà. Alors, vous m'interrogez, et je vais répondre très facilement sur la crise agricole, puisqu'en tant que banquier, vous imaginez que je suis très à l'aise pour répondre sur ce type de sujet. Et j'aimerais d'ailleurs parler plus précisément de la production que je connais bien, la production de fraises, puisque je suis moi-même aux fraises. Mais surtout, il faut, en termes de production, arrêter, je le dis, je le dis avec beaucoup de conviction, je dis, attention, mon triple menton, il faut arrêter la production d'impôts dans ce pays, il faut procéder à l'arrachage parce que ça ne marche pas. On plante beaucoup trop d'impôts et il ne pousse que du déficit.
Bon, alors justement, revenons au budget quand même.
Alors, ça m'arrange. Attendez, j'enlève mes bottes, je remets mes mocassins tout terrain. Alors, pardonnez-moi, oui, Mme Malherbe, je vais le dire avec un petit peu de gravité. Tout à l'heure, je plaisantais un petit peu avec les fraises, mais là, j'aimerais le dire avec beaucoup de sérieux, avec un peu de gravité, parce que c'est vrai que j'ai une voix, parce qu'on ne me prend pas au sérieux, parce que j'ai une voix tellement rassurante, je fonce les sourcils, avec gravité, il nous faut un budget. Comme j'ai un petit peu plombé, allez, je vais essayer un petit peu de détendre un peu l'atmosphère avec une petite devinette pour nos amis agriculteurs. Amis agriculteurs, producteurs de fraises. Que fait une fraise sur un cheval? Tagada, tagada. C'est mon côté de galop.
Merci François Villeroy de Gallo, je suis plié. Et tout de suite, on se retrouve bien Pascal Praud pour les titres de l'actualité. Bonjour Pascal.
Eh oui, bonjour chers collègues, Apolline de Malherbe, toujours au firmament des audiences. J'en pâtis. Nous partons en Corse, si vous le voulez bien, tous les deux, non pas que tous les deux, avec nos auditeurs. La Corse est sous le choc après qu'Alain Sony ait été abattu d'un coup de carabine devant la pierre tombale de sa maman. On connaissait l'expression « faire d'une pierre deux coups », et bien chez nos amis corses, c'est le contraire, « faire d'un coup deux pierres ». L'actualité, c'est toujours la colère agricole. Paris est en train d'être, oui, nous l'espérons, débloqué, mais le port du Havre, lui, reste bloqué. On rassure quand même les habitants du Havre. Il reste toujours les routes, la gare et même l'aéroport si vous comptez vous enfuir au plus vite du Havre. Puis crise agricole toujours, les agriculteurs sont remontés à Paris hier pour exprimer leur colère et attirer l'attention du gouvernement. Et Jean Lassalle voulait les soutenir. Monsieur Lassalle, la parole est à vous.
Oui, bonjour monsieur Praud, bonjour madame, monsieur Riguet, je demande, je ne sais plus son nom. Madame, comme Gérald de Gaulle et son appel du 18 juin, ils ont mis enfin un gars connu à sa place, juste pour Alors, oui, je suis rebondir parce que je suis très facile dans l'humour. J'ai le sens de la répartie, je fais du Van Damme show. Alors, donc je disais, comme Gérald de Gaulle et son appel du 18 juin, sur Radio Londres, eh bien, je lance solennellement l'appel du 18 juin sur Radio, du 14 janvier, pardon, sur RMC. Oui, il faut, je le dis à nos amis agriculteurs, il faut résister. Mais à Paris, vous passez inaperçu, même dans vos tracteurs. Allons, ouvrez les yeux, parce qu'à Paris, une personne en colère qui roule à deux à l'heure dans un véhicule qui pue et qui gueule contre ses conditions de travail, c'est le quotidien. Ça s'appelle pas un manifestant, ça s'appelle un Parisien. Et vous êtes noyé dans le troupeau.
Merci, monsieur Lassalle. Les agriculteurs en colère qui bloquaient l'autoroute A64 ont été délogés hier par les forces de l'ordre. Et on fait le point avec Jérôme Bail. Bonjour. Oh.
Oui, moi j'ai pas besoin qu'on me pousse pour rentrer à Paris. Je suis rentré direct à la ferme parce que j'ai appris une terrible nouvelle. Il y a eu un drame à la ferme.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Ça fait presque 2 mois que je suis absent, à bloquer l'autoroute, à faire brûler les palettes. Les copains m'ont prévenu, ils m'ont dit: Jérôme, je crois qu'il faut que tu rentres. Je comprenais pas le message. Et là, une fois rentré, j'ai compris parce que ma femme...
Qu'est-ce qu'elle a, votre femme?
Ma femme est partie!
Oh là là! Ah, je comprends, c'est très dur.
Mais non, mais je m'en fous qu'elle soit barrée! Ce qui m'a fait mal, c'est qu'elle s'est barrée avec...
Avec qui?
Elle s'est barrée avec... Avec un éleveur de bovins argentés!
Oh non!
Depuis le jeudi, j'ai dit que c'était un concurrent, c'était déloyal, le Mercosur. Lui, c'est un des concurrents, c'est loyal. Lui, il est plus bandit que moi. Il a un joli accent. Il a pas besoin de mettre une casquette parce que lui... Il a des cheveux, lui. La concurrence est loyale.
Merci.
On va continuer avec les agriculteurs, parce qu'on a Didier Giraud, notre ami agriculteur de Saône-et-Loire, qui sera avec nous. Est-ce qu'ils se sont fait blouser, les agriculteurs? Vous venez en discuter avec nous au 32-16. KFC qui va proposer une offre 100% halal dans 24 restaurants. Là encore, ça mérite quelques commentaires. Et puis nous serons avec Alexandre de Vecchio, le journaliste du Figaro. Il raconte son enfance en Seine-Saint-Denis. À l'époque, dit-il, nous vivions côte à côte. Aujourd'hui, on est face à face. Allez, à tout de suite.